Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais...
Bah.
Oh.
J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez pas dans les commentaires.
Bah, bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord?
Oui.
J'adore.
Je n'ai pas compris ce point dans le podcast.
Le kiff. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
Oh, quoi? Quoi?
Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, putain.
Mais ça va pas de me poser une question pareille.
Bonjour.
Bon anniversaire.
Joyeux Pâques. Bonne année.
Bonne année.
Bienvenue dans Laisse-moi kiffer numéro 176. On est bon? Je m'étais pas trompée la dernière fois. On a eu un
175,
doute sur le dernier.
Je crois que c'est 175. Parce que la semaine dernière, on a dit 175, alors que c'était le 174.
Désolé.
Voilà.
On a pourtant un système de notes très fiable de numéro des épisodes qui consiste à moi qui change le numéro sur mes notes chaque semaine. Visiblement, je me suis trompée. Bienvenue donc dans le deuxième Laisse-moi kiffer numéro 175. Je suis Mimi, toujours la rédactrice en chef de mademoiselle.com, car je n'ai pas postulé à la petite île britannique qui cherchait un aubergiste roi. J'aurais dû. J'hésite encore, peut-être que c'est encore ouvert, je vous tiendrai au courant. Je suis entourée d'une super team, comme d'habitude, je vais la découvrir avec vous grâce à une question de type portrait chinois que j'ai choisi il y a exactement 3 minutes. En me demandant qu'est-ce que je vais pouvoir leur demander, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et là je me suis rappelée, qu'est-ce qui se passe dans le monde au moment où nous enregistrons cette tradition très française et très dérangeante de la galette des rois, que personnellement, évidemment, je déteste. Je voudrais donc vous demander, de façon tout à fait objective, quel dessert pas vraiment bon êtes-vous ? C'est-à-dire un dessert un peu bof, pas le truc hyper sexy, genre moi je suis une tarte au citron meringuée, Yann Couvreur, machin. Un truc un peu bif bof sucré, mais vous êtes là, en vrai, ça me correspond. Je vais commencer parce que je pense que c'est... Il y a un peu de réflexion. Donc la logique derrière tout ça étant bien sûr que la galette des rois, c'est dégueulasse. Brioché, fourré, frangipane, tout ce que vous voulez, c'est jamais très bon comme gâteau, c'est la vie.
Sans mauvais jeu de mots, t'es sur des œufs là, vraiment.
Toujours ma take que vous avez pu retrouver sur l'Instagram de Mademoiselle. Si la galette des rois c'était aussi bon, on n'en mangerait pas qu'une fois dans l'année. Et beaucoup de gens m'ont dit, moi j'en mange en juillet. Vous mentez, ça ne se trouve pas en juillet les galettes des rois. Arrêtez de mytho. Ou alors vous les faites maison et c'est votre problème. Personnellement, je pense que je serais une gaufre nature. Car c'est quand même bon. J'adore la pâte et j'aime pas trop le sucré. Donc en vrai, j'aime vraiment premier degré les gaufres nature. Mais c'est un peu décevant. Jamais dans la vie, tu te dis, j'ai bien hâte d'avoir une gaufre à rien. C'est très très bon.
Vraiment rien dessus. Ça
mais me... comme je suis une femme simple et finalement avec peu d'artifice, je me dis, une gaufre nature, c'est croquant, c'est fondant, c'est pas dingue. Mais ça fait le taf. Ça me va bien finalement. Même si en vrai, j'ai un problème avec la chantilly. Donc je mettrai bien évidemment... 8 fois l'épaisseur de la gaufre en chantilly dessus avant de la manger et de m'en mettre partout.
Bah c'est mais pas nature,
ça
du
me...
coup.
Non, mais ça, c'est ce que je mange comme gaufre. Ce n'est pas la gaufre qui me correspond. Parfois, on n'est pas la gaufre qu'on veut manger, on est la gaufre qu'on est, tu sais.
On a déjà un titre. Envoyez le générique, c'est fini. Merci.
Ok. Est-ce que quelqu'un a trouvé le dessert un peu pas dingue?
Moi, je crois que j'en ai un. C'est, c'est plus catégorie goûter que dessert. Mais
ça me va aussi.
Tu sais, c'est les sablés, genre... que ta grand-mère ou ta tante elle fait qui sont un peu basiques, genre enfin ils sont sucrés, ils sont un peu dorés, en vrai ils sont pas mauvais, ça fait toujours plaisir, mais en même temps bon bah, c'est un peu classique.
Ouais, c'est pas une grande pâtissière non plus quoi.
Mais ça rappelle des bons souvenirs, c'est un peu nostalgique, donc voilà, je pense que ce serait ça parce que je sais pas, j'aime bien la nostalgie, un truc comme ça. J'ai pensé spécifiquement à ça, donc voilà.
Très bien. C'est vrai que t'as une vibe un peu rétro. Si vous ne voyez pas visuellement Eva, on est dans une vibe Y2K très affirmée.
Totalement.
Avec des ongles et des créoles à la Jennifer Lopez, Jenny from the Block. Donc la nostalgie, ça marche bien.
Voilà.
Audrey, est-ce que tu sais ?
Ouais, alors moi, c'est pas que c'est un dessert pas dingue, parce que je trouve ça délicieux, mais c'est juste que je suis intolérante au lactose. Donc
oh non !
Pour moi, c'est pas dingue. Pour mon estomac, c'est pas dingue. Mais c'est le sorbet coco de Guadeloupe. Et en fait, c'est fait avec du lait comment on appelle ça, concentré.
Ouais.
De la vraie noix de coco fraîche, plein d'épices. Wow. Et en fait, c'est fait manuellement, souvent par des vieilles dames sur la plage. C'est délicieux. Donc, en soi, pour vous, peut-être que ce sera dingue. Et pour moi, ça l'est aussi. Malheureusement, mon estomac n'est pas d'accord avec ça.
Après, la grosse frustration.
Mais j'en mange quand même. Et du coup, je trouve que ça me correspond bien. C'est toute ma paradoxalité. Ouais. C'est ça.
Je ne devrais peut-être... pas le faire, mais j'irai quand même.
Voilà, c'est ça. Ma toxicité aussi, je ne sais pas. Voilà.
Cela dit, on a fait Nouvel An avec mes potes. J'ai une pote qui est intolérante au lactose. Et elle nous a proposé de faire un bingo de nos vacances de Nouvel An en amont, de noter tout ce qu'on pensait qui allait arriver. Et ensuite, de débriefer qui a causé le plus de cases du bingo, et j'avais écrit Fanny, qui est donc intolérante au lactose, mange trop de fromage et regrette, parce que deux fois par an elle fait une raclette et elle est là, je sais que c'est pas bien, mais je vais le faire quand même.
Bah ouais, parfois. Bon, maintenant c'est la question ne se pose plus, j'en mange plus, mais quand même, c'est...
Ça te manque quand même un peu.
Est-ce qu'il y a une version vegan avec du lait concentré d'avoine ou je sais pas quoi, le sort des cocos gentrifiés?
C'est pas le genre de la Guadeloupe de faire ça.
Vous avez du lait d'avoine,
un truc de niche à développer à Paris pour les bobos. Le sort des cocos vegan sans gluten.
Avec du quinoa et des graines de chia.
Yes. Mathis, es-tu une tarte aux pommes normande?
Non, moi je suis tourmenté pour l'instant. Très tourmenté parce que j'ai deux possibilités.
Je fais un homme d'ambivalence.
Ouais.
Pitche-nous les deux et on votera.
Alors j'ai l'option où je suis une personne simple et généreuse. Je ne sais pas si je suis généreux, je ne sais pas si je suis simple. Je suis du Queen Yaman, c'est-à-dire je dégouline globalement de beurre. Je ne suis que du beurre, je suis tout beurre.
Ah non, il y a du sucre aussi.
C'est vrai qu'il y a du sucre aussi. Mais voilà, mais je ne sais pas si je suis un Queen Yaman dans la vie de tous les jours. C'est une question que je me pose régulièrement.
Mais c'est délicieux le Queen.
Bah, c'est pour ça que j'ai viré mes psys, ils savent pas répondre à cette question. Bah, c'est délicieux et en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en manger plus que ça. Moi, j'avoue que je m'en laisse pas
j'en
trop.
J'en ai jamais mangé, mais ça a l'air incroyable à chaque fois que je vois une photo.
On peut dire que pour mes goûts, par exemple, je vais encore avoir des problèmes avec la Bretagne, ça manque un peu de délicatesse ou de raffinement. Quoi.
C'est, ah oui, ça,
c'est la Bretagne.
Du beurre et du sucre. Quoi.
C'est clairement une mode de beurre parsemée de sucre. Et...
Voilà.
Wow.
Non, je vais choisir autre chose, justement, parce que je suis normand, donc je vais peut-être pas dire un truc breton. Non, je suis bien les petits sablés avec la pâte de fruits dedans. Que genre tâche et tata. Et ça, c'est très, très
ça,
décevant.
Tu m'as dit pas de fruits dedans, j'étais là, waouh.
Tu sais, t'as la dalle, parce que ça fait 4 heures qu'ils sont en train de parler, les adultes, toi, t'as 8 ans, et t'es en train d'émietter ton sablé comme tu peux sur la table pour essayer de te barrer, parce que t'en peux plus. C'est pas mangeable. Et vraiment, t'as des fruits, tu te fais, c'est pas des fruits. C'est des pâtes de fruits. Et comment on fait des pâtes de fruits? Si quelqu'un sait comment on fait les pâtes de fruits, vraiment.
Du sucre.
Ouais, je pense que c'est juste genre.
C'est, pourquoi c'est pas
sirop,
bon alors?
C'est avec du sirop.
Ah bah, je sais pas pourquoi c'est pas bon.
Mais du coup, tu t'identifies à ça. C'est intéressant.
Ben ouais. Je suis une personne qui est là
avec
parce que
un
bon,
un peu
on a faim,
décevant.
Tu vois.
Waouh.
Je vous poserai une question qui vous permet de mieux vous valoriser la prochaine fois. Mais surtout toi, même quand je te pose des questions sympas, tu te dévalorises. Alors forcément.
Mais j'arrive pas à trouver le petit twist pour trouver un. Ben en même temps, tu
non,
dis
mais
un gâteau décevant.
Sablé fourré à la pâte de fruits, c'est un gâteau décevant.
Ben au moins, il est fourré, franchement, belle vie.
Oula. C'est pas tout le monde qui peut en dire autant.
On
allez,
part sur un truc.
On rappelle que Mathis commence 2022 l'année du célibat. Au cas où ce n'était pas clair. Sur ce, c'est l'heure de passer aux commentaires pendant que Mathis devient moins rouge.
Il fait 47 degrés ici, il faut préciser quand même.
Oui, c'est la pièce qui est chaude, bien sûr.
N'est-ce pas ?
Eva, est-ce que tu as retrouvé, tu m'as dit que tu avais un vieux commentaire, car ça fait un moment que tu n'es pas venue dans LMK, c'est validé, on a le droit de dire des vieux commentaires, mais est-ce que tu as réussi à mettre la main dessus?
Je l'ai retrouvé, et du coup, alors c'était le 6 octobre que j'ai reçu ça, donc il y a un petit moment, et ça relance toujours ce débat houleux sur « Coucou, je croyais être la seule à ne pas aimer les peaux de Clémentine, je me sens moins seule ». Donc voilà, toujours le même problème des peaux de Clémentine au bureau.
On a ce problème des peaux de Clémentine.
Ça revient.
Tragique.
Bon, après, là, en ce moment, je trouve que c'est moins un problème vu qu'on se croise moins au bureau, mais quand même, quoi.
C'est l'hiver Covid est beaucoup plus simple pour les gens qui détestent l'odeur de la Clémentine.
Pour dire qu'on n'est pas les seuls, du coup, c'est assez rassurant.
Yes. On est au moins 3. Voilà, incroyable. Contre le milliard de personnes qui adorent bouffer des Clémentines.
C'est ça.
J'en ai acheté des très mauvaises. Je vais dans votre sens.
Ça t'apprendra à en acheter en même temps.
Mais elles sont espagnoles. C'est pas très bon, les espagnols, apparemment.
Ah ouais.
Faut prendre des corses.
Oui. Nous parlons bien sûr des clémentines et non des personnes.
Tout est ambivalent.
Tout est à double sens.
Vous avez l'esprit mal placé, c'est tout. Voilà.
Certes.
Audrey, est-ce que tu as un commentaire?
Alors, j'ai pas retrouvé de commentaire. Je sais que j'en avais reçu plusieurs par rapport à mon dernier kiff, qui était sur Frida, le film du coup sur Haïti. Il y a pas mal de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient été le voir.
La propagande a fonctionné.
C'est ça.
Yes.
Je suis une influenceuse.
Évidemment.
Ou qu'il et elle comptaient le voir. Et surtout, des personnes qui me disaient qu'elles n'étaient pas forcément des Antilles, etc. Mais que, étant d'une autre nationalité ou ayant d'autres origines, ça les intéressait d'aller voir ce genre de film. Donc c'était cool d'avoir plein de retours et tout.
Oui, quand on avait parlé, on était genre 3-4 métis finalement autour de cette table. Et on avait tous et toutes un rapport à redécouvrir une partie de sa culture via le cinéma, même si c'est pas du tout le même pays, quoi.
Exactement, c'est un peu les retours que j'ai eus, donc c'est cool, c'est sympa.
Tout à fait. Est-ce que Frida est dispo en VOD quelque part? C'est pas impossible, peut-être c'est encore un peu tôt.
Je pense que c'est encore un peu tôt, mais je regarderai, mais je pense pas encore. Mais ça devrait pas tarder.
J'aimerais vraiment le voir, moi je l'avais loupé complètement, j'ai pas du tout eu le temps d'aller le voir, et j'ai trop envie de le voir, donc
franchement,
j'espère qu'il
va
être bientôt dispo quelque part, effectivement.
Je pense que oui, faudra checker.
On vous tient au courant. Mathis.
Oui, moi j'ai un commentaire un peu intense de Louise qui a comme hâte flamant vert tiré du bas, qui nous dit « Bonjour LMK, pour inaugurer la nouvelle session DM, je vous envoie ma petite histoire. Il y a un mois, comme tous les jeudis, j'écoutais LMK sur la route pour me rendre au travail. J'ai roulé sur du verglas et j'ai perdu le contrôle du véhicule.
Oula !
Je suis tombé dans un espace de creux et j'ai donc fait une chute de 3 mètres en atterrissant sur une toiture. Promis, c'est pas mon T9 qui déconne, j'ai bien écrit une toiture. Le téléphone a été propulsé en dehors de l'habitacle. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'une fois revenu à moi, suspendu par ma ceinture de sécurité la tête en bas, j'entendais vos 12 voix qui continuaient à rigoler.
Dernier truc que t'entends avant de mourir, mon connerie dans la pierre.
C'est horrible. T'as
Mathis qui dit qu'il veut se faire fourrer.
T'as Kéline dit qu'il te parle de ses branlettes en écoutant les rois du monde et t'es là, c'est comme ça que je vais mourir.
Voilà, et donc elle nous raconte que grâce à nous, elle a compris que son téléphone était suffisamment proche de la voiture car le Bluetooth fonctionnait et j'ai pu appeler les pompiers. C'était un matin de merde. C'est qu'elle
non,
dit.
À peine.
Waouh.
Moi, un matin de merde, c'est genre je me réveille de mauvaise humeur. Voilà.
Oui, voilà, c'est. À la limite, je glisse sur du verglas, mais je tombe sur le cul, quoi. Je tombe pas de 3 mètres sur une toiture suspendue la tête en bas par ma ceinture dans ma bagnole.
C'est super intense.
Exactement.
C'est Fast and Furious.
Ah, mais j'avais prévenu. Hein. Oh, wow. Et je suis restée une heure toute seule avant qu'on me retrouve et j'ai donc essayé de me détendre en finissant mon LMK.
La gueule est là. Je vais finir l'épisode du coup. Hein. Au moins, je serai à jour.
C'est trop.
C'est vite.
Si vous êtes en train de conduire, écoutez-moi bien. Faites attention.
Attention, verglas.
Ah ouais, vraiment.
Et donc voilà, en priant pour que la voiture soit stable. Tout ça pour vous dire merci pour vos rires. Vous nous accompagnez dans des moments loufoques dont vous n'avez pas idée. Des bisous, prenez soin de vous et dédicace au LM Kiefer qui vous écoute en conduisant.
Voilà.
Incroyable. Vraiment, ça me terrifie. Enfin, j'ai pas le permis, je conduis pas. J'ai jamais été dans un accident plus sérieux que... Ah, on s'est fait un peu râper par une voiture qui a démarré trop vite. Donc je suis terrifiée. Mais la personne a l'air de le prendre de façon plutôt philosophique, quoi.
Bah, elle a réussi à se détendre, c'est déjà pas mal. Parce que
on est content d'avoir aidé.
Bah ouais, c'est assez dingue. Hein. Je pense que j'aurais du mal à focus sur les conneries qu'on est en train de raconter. Quoi.
Pendant une heure, ouais, c'est long.
Suspendu
en espérant que la voiture reste stable. Donc il y a un peu le côté, potentiellement, la voiture, elle se crache d'une minute à l'autre, ça lâche, elle tombe avec, je ne sais pas. Tout est bien qui finit.
Je suis terrifiée aussi, j'en suis figée.
Bravo pour votre courage, les LM Crado. Ouais, vous survivez à beaucoup de choses qui nous terrifient. Moi, j'ai un commentaire reco, un commentaire mini-kiff finalement d'auditrice, je pense, qui est sûrement un sujet dont je vous reparlerai dans Laisse-moi kiffer. Mais comme je sais déjà que c'est une bonne reco, je me suis dit que j'allais vous la filer, comme ça vous avez le temps de découvrir et on s'en reparle très vite dans le podcast car ce sera un de mes kiffs. C'est Nop qui me dit « Bonjour Mimi, je tiens à te dire un gros merci déjà pour continuer à tenir les rênes de LMK, c'est toujours mon gros kiff de la semaine. Ensuite, je me devais absolument, oui en majuscule, te faire une reco jeu vidéo. » Tu connais sûrement déjà, mais il existe un jeu qui est un genre de Stardew Valley. Stardew Valley qui est donc mon jeu vidéo préféré de la vie, où on gère une petite ferme et c'est trop mignon. Mais où on gère une taverne médiévale. C'est un peu ton kink, non? Oui, un peu. On peut créer ses recettes de bouffe, créer sa propre bière, cultiver des légumes, tout décorer, récolter des ressources pour forger des super bougeoirs et de la décoration. Bref, mon jeu du moment, c'est Traveler's Rest. Et donc, j'ai reçu ce DM très exactement, je dirais, il y a 4 jours. Ensuite, mardi, j'avais ma 3e dose. J'ai donc dit à mon mec, je rentre de ma 3e dose et j'installe Traveler's Rest et je joue à ça. Et j'ai fait ça et c'était super. Je vous en parle plus en détail, mais voilà, si vous aimez les jeux de gestion et les auberges médiévales, installez Traveler's Rest, passez-y quelques heures, par quelques heures, je veux dire probablement 15 d'affilée. Et on en reparle très vite dans Laisse-moi kiffer. Mais merci pour cette reco. N'hésitez pas à m'envoyer en DM tous vos jeux de gestion mignons et tous vos petits jeux indés qui n'ont pas besoin d'une grosse puissance, car j'ai un Mac. Calmez-vous, car j'aime tout ce qui se passe. C'est l'heure du message non pas Boubouréré, puisqu'on a une petite variation cette semaine de la personne qui nous l'a envoyé. Elle nous a envoyé ce qu'elle appelle un message bouffon. Un message boubou-fonfon. C'est Laura, et c'est parti.
Bonjour LMK, c'est Laura. Je voulais juste vous enregistrer un message boubou, un message riré, mais aussi on a un petit peu mangé des wraps salades, donc c'est aussi un message fonfon, donc c'est un message bouffon. Enfin bref, je vous aime très fort, vraiment. Vous m'avez fait passer de si belles années. Et là, la dernière, elle était quand même vraiment hardcore. Et vous faites partie des raisons pour lesquelles j'ai continué à sourire, donc je voulais vous dire merci. J'espère que ce sera tout pareil en 2022 et encore mieux. J'espère que vous allez passer une belle année. Vous entendez peut-être ce bruit, c'est mon compagnon qui ronfle à côté de moi, puisqu'il est 4h30. La quatrième heure, on est dans la cinquième heure de l'année 2022 en France. Et bon, bah là, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein. On va croiser les doigts, puis on va marcher avec la tête assez près du sol, et surtout les mains assez près du sol pour pouvoir se rattraper rapidement, au cas où. Voilà, je vous laisse. Moi, je vais aller faire un petit dodo parce que ça fait quand même beaucoup de calories de sortie d'avoir rigolé comme ça toute la soirée. Et c'était vachement bien. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à ma copine Lapin. Lapin, t'es la meilleure copine de bouffon. Voilà, je t'aime très fort. Et je vous aime très fort aussi. Toute l'équipe de LMK. Les anciens comme les nouveaux. Et aussi les tout nouveaux. Des gros bisous.
Laura,
wow, wow.
Laura, la tendresse. C'est le message boubou le plus apaisé qu'on ait eu. Et pourtant, on sait que la personne a quand même vécu une année compliquée, ah là, mais elle a décidé de...
Tu rigoles, on dirait qu'elle est cachée, qu'il y a le GIGN derrière la porte, je suis terrifiée.
Il y a son mec qui ronfle.
À tout moment, enfin, il y a une personne
dans
qui
son
va
lit
arriver,
avec
genre...
l'autre qui ronfle à côté, en mode « Bonjour LMK ». Moi, j'ai trouvé ça apaisé, on sent que le sommeil est proche. Il n'y a pas la forme de frénésie des messages boubou, où ça coupe, les gens ils sont paniqués, ils comprennent pas que l'audio il a coupé et tout. On était sur un bon flow, très chill. Écoute Laura, on espère que 2022 sera mieux que 2021. On va tout faire pour marcher la tête haute et non pas près du sol parce que vous allez vous faire mal quand même. Donc,
tu peux te mettre
autant
debout.
Avoir l'air stylé avant. Merci beaucoup pour ce message. Nous ne vous encourageons pas à consommer de l'alcool et à vous retourner la tête. Mais si jamais un jour vous êtes, voilà, un petit peu boubou, un petit peu riré, un petit peu pompette, et vous pensez à Laisse-moi kiffer, envoyez-nous un petit audio. Vous passerez dans Laisse-moi kiffer. Ça nous fait très plaisir que vous pensiez à nous, que vous soyez sobre ou non. On pense aussi à vous, que nous soyons sobres ou non.
Magnifique.
C'est vrai.
Nous avons une petite anecbof de star, et ensuite on pourra passer quand même au kiff, qui est bon, finalement le cœur de ce podcast. Quoi. C'est une anecbof de star de Louise. Attention, ça va aller vite. Petite anecbof de star. Je me baladais dans un parc avec mon neveu, qui tenait une barbe à papa. Un monsieur accompagné d'un enfant est venu nous voir pour savoir où on l'avait acheté. Après lui avoir indiqué où c'était, je me suis rendu compte que le monsieur n'était nul autre que Cadmerad. Star pas trop bof, anecdote vraiment bof, pour vous servir. En effet, c'est assez nul, merci beaucoup.
Voilà.
Car pour rappel, une anecdote de star, c'est soit une anecdote... Waouh, c'est dur à dire. Une anecdote un peu naze avec une star cool, soit une anecdote vraiment cool mais avec une star un peu naze, soit vraiment un truc 100% naze. Si vous avez une anecdote que cool avec une star cool, c'est pas la peine de nous foutre la mort. Ne nous l'envoyez pas, on ne veut pas savoir. Oui. Si vous avez pas été de boire des cocktails avec Rachel Weisz, c'est très bien pour vous. Ne nous le dites pas. Je suis jalouse après. C'est l'heure de passer au kiff. Et je crois que nous avons, Mathis, un nouveau jingle. N'est-ce pas ce que tu m'as murmuré à l'oreille ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Très bien, merci beaucoup, cher LM Crado, qui nous a envoyé non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre nouveaux jingles pour l'émission. C'est l'heure de découvrir le premier d'entre eux, jingle.
Ça fait bien longtemps que Cédric est la star du générique, mais voilà que je m'en viens détrôner ce gars bien. Par contre, s'il vous plaît les gars, juste une requête comme ça. S'il vous plaît pour mon bien, m'appelez pas Valentin. Les kiffs vont commencer. Kiff passionné. Et toi, Hélène Kiefer, mange tes écouteurs. Oui, mets-toi dans l'ambiance, sans jugement, pas de balance. Un kiffer dans le cœur, fais entrer dans la danse. Il est temps d'avancer, balance ton kiff, balance. Dis-nous ce que t'as dans le cœur, donne-toi ta chance. Avis de tes lubies, je veux être diverti. Raconte-moi n'importe quoi, mais je trouverai ça sans phare.
On ne va pas dire. Merci Valentin pour ce très beau jingle, car la personne qui nous l'a envoyé veut rester anonyme, ce qu'on comprend vu sa notoriété, mais veut aussi ne pas être appelé Valentin, ce qui est son droit. Nous allons donc nous fendre en cœur d'un petit merci Beyoncé à 3. 1, 2, 3.
Merci Beyoncé !
Incroyable jingle. Pour rappel, vous pouvez nous envoyer vos jingles si ça vous fait marrer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et c'est l'heure de passer au kiff, en commençant par toi Mathis.
Oui.
Quel est ton deuxième kiff de 2022? Est-ce que ce serait pas un livre?
C'est incroyable.
Parce que l'épisode dernier, il y avait trop de livres, donc je lui ai dit, prends pas un livre, change. Ça l'a vexé pour 128 ans, et maintenant, deux jours après, tu peux parler de ton livre.
Ouais. Non, mais je suis, en plus, ça fait un effet d'attente absolument dingue, alors que globalement,
je t'ai mis
c'est
la pression
tout seul à l'école des Schtroumpfs, quoi. Enfin, vraiment, c'est un beau crossover.
Alors, j'ai fait découvrir à mon neveu Choupi et le Père Noël, le gars était à fond. Donc, grande littérature. Hein.
Ouais, franchement. Petite parenthèse, les gars qui font Brut, je ne sais pas si vous voyez Brut, ouais. Avant, ils faisaient d'autres vidéos parodiques et ils avaient fait une parodie de On n'est pas couché et ils invitaient une fausse autrice de livres pour enfants et en fait, ils la défoncent sur vraiment pauvre
ah oui,
marché,
genre.
Tu vois. Et ils sont vraiment en mode, oui, ça, ce n'est pas que de l'antisionisme. Enfin, vraiment, genre, alors qu'elle écrit vraiment, genre, peau achète de la salade, quoi. Et, voilà, je mettrai le lien dans la description, voilà, si vous voulez parler et analyser les livres pour enfants et défoncer les auteurs, allez-y.
Tout à fait.
Très bien, merci. Merci beaucoup, Alexandre, pour cet avis qui est chargé, hein. Mais bah, qui est le vôtre, hein, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut de cet ouvrage. Camille, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors moi, je préfère même pas rentrer dans ce débat, hein, surtout pas. Je vais plutôt faire quelques petites notes globales sur le style. Alors voilà, par exemple, page 11, il est écrit « Et hop, le chapeau sur la tête de Croco ». Donc là, déjà, voilà, il n'y a pas de verbe, c'est niveau 6e. Ensuite, il y a 15 personnages pour un livre qui fait 20 pages, donc ça fait vraiment beaucoup. Et sans parler des noms des personnages, hein, là, il faut vraiment s'accrocher. On est sur du popo, on est sur de la founette. Voilà, celui-là, je l'adore, rigoletton.
C'est parce que c'est un ours rigolo.
Bah oui, mais dans ces cas-là, il faut l'appeler ours, hein. Il faut l'appeler Nadège, j'ai pas besoin comme ça de souligner le caractère des personnages par leur prénom.
Eh bien écoutez, en tout cas, moi j'ai l'impression que l'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un livre qui ne laisse personne indifférent. Hein,
voilà, donc mon kiff, moi tout simplement, ne casse pas trois pattes à un canard, tout simplement parce que toute la presse en a parlé avant moi, mais comme j'ai fait un gros effet d'attente, vous serez déçus. c'est tout simplement le dernier livre d'Édouard Louis. Édouard Louis, moi je commence à connaître un petit peu trop le bonhomme, puisque tout simplement j'ai décidé de faire mon mémoire dessus. Pourquoi? Pour qui? On ne sait pas.
Peux-tu quand même, pour les gens qui peut-être ne sont pas dans la rentrée littéraire française,
bien
rappeler
sûr
qui est Édouard Louis? Alors, même moi je sais, donc pour une
non,
fois je
voilà
le sais.
Il faut savoir que je lis pas beaucoup de livres, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas très intimidant. J'adore lire, je prends juste pas assez le temps de le faire, je me déteste, la vie est triste.
Bah comme tout le monde depuis que les
voilà
smartphones
voilà
existent. Hein.
Donc Édouard Louis, en gros c'est quelqu'un qui a débarqué en 2014 dans la scène littéraire de manière un peu surprenante avec un livre qui s'appelait En finir avec Eddie Bellegueule, qui est en fait ce qu'on appelle une autofiction, donc il y a une grosse part de vérité et en même temps c'est assez écrit donc on ne sait pas vraiment globalement, enfin voilà. Je résume grossièrement l'autofiction, si vous êtes prof de littérature insultez-moi en message privé. Et donc Édouard Louis, en fait, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle un transfuge de classe, c'est-à-dire qui a changé de classe sociale. Et souvent, bah, transfuge, c'est aller vers les classes supérieures, enfin dites supérieures. Et en gros, bah voilà, il vient d'une famille très très précaire en Picardie. Et maintenant, c'est un mec qui a fait l'ENS, qui écrit des livres, qui incarne vraiment ce qu'on peut imaginer de plus abouti de la bourgeoisie, quoi. Mais qui a un recul critique là-dessus et une pensée assez militante. Et en fait, le truc que moi j'ai trouvé intéressant avec son dernier livre, c'est que donc, dans tout ce qu'il a écrit jusque-là, je trouvais ça assez descriptif souvent. Et surtout, c'est quelqu'un qui a écrit très jeune. Son premier livre, il est sorti, il a dû l'écrire à 20, 21 ans, je crois. Et bon.
Ça va, les gens qui s'y mettent tôt, là.
Non, mais c'est ça.
Moi, je ça veux dire, met la pression aux autres après.
J'ai 23 ans et je me dis, ce que j'aurais écrit il y a 2 ans, ça aurait été d'une immaturité crasse. Et en fait, là, on voit avec son dernier livre qui s'appelle donc Changer de point méthode. Changer méthode montre vraiment que bah, le gars a pris en maturité, a pris vraiment du recul. Et en fait, il réécrit sa propre expérience et il revient en fait sur ce qu'il a déjà dit, mais en ajoutant pas mal de choses. Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait perpétuellement un travail de retour sur soi et qui comble doucement les trous et presque les... comment dire, des choses que sa mémoire va un peu déformer selon les occasions. Et en fait, on se rend compte quand il sort un livre, souvent, qui parle un peu de la période précédente pendant laquelle il avait sorti son livre, et tu te rends compte que ça allait pas du tout. Enfin, typiquement, Histoire de la violence, quand c'est sorti, ça parle d'une agression sexuelle absolument horrible qu'il a vécue et tout. Et il te raconte tout ça. Et en fait, on n'avait pas du tout conscience au moment du premier livre que c'était à peu près dans cette même période-là. Donc c'est toujours un peu étrange de les lire parce que ça... vous vous retrouvez avec des espèces de pièces du puzzle à chaque fois, quoi. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un côté un peu plus large dans son livre et en même temps très attaché aux détails et au sens vraiment de ce qu'il a fait, c'est-à-dire plus que l'environnement dans lequel il a évolué, parce que c'est quelqu'un qui décrit beaucoup. Là, on est vraiment sur voilà ce que j'ai fait concrètement pour me construire en tant qu'auteur, pour me construire en tant que bourgeois et pour échapper à... aux logiques de reproduction qui sont souvent à l'œuvre dans la plupart des trajectoires. C'est-à-dire, son père bossait à l'usine, son grand-père bossait à l'usine, son frère bossait à l'usine. Et voilà, il a décrit dans plein de livres à quel point c'était des gens qui mouraient jeunes avec des gros problèmes de santé, puisque en France, on va pas se mentir, les pauvres, on n'aime pas ça. Politiquement, je parle.
Oui, et donc, émotionnellement, ça va. Sinon, vraiment...
Ça... Oui, si on peut faire du pathos, c'est assez facile. Mais voilà, en tout cas, c'est un auteur qui est vachement intéressant là-dessus. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce dernier livre, c'est qu'il évoque vraiment par étapes les choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse nuance. Je ne sais pas si vous aviez vu Marvin ou La Belle Éducation qui était sortie au cinéma et qui était inspirée de En finir avec Eddie Bellegueule. Donc, c'était un film qu'avait fait Anne Fontaine et que j'ai détesté. Et Edouard Louis aussi, je crois, avait détesté. Et d'ailleurs, il a refusé qu'on dise adapté vraiment du livre. C'est inspiré. Parce que, en fait, c'est hyper caricatural. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde à l'autre. Donc, les très pauvres qui sont très brutaux, très cons, très homophobes, les méchants pauvres. Et on arrive chez la bourgeoisie accueillante, ils rencontrent Isabelle Huppert. Enfin, globalement, le mec, il arrive à Paris et puis, globalement, il y a l'Élysée qui est ouverte. Oh, vas-y, il y a une chaise de libre, assis-toi.
Ouais, moi, je suis arrivée à Paris en 2016, j'ai toujours pas vu Isabelle Huppert. Hein. J'attends.
Isabelle.
Slide dans mes DM,
viens.
Lisa.
Viens. Et donc, là, voilà, je trouve qu'on a une vision un peu plus nuancée parce qu'on a vraiment des étapes. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à Paris, il s'installe à Amiens et il explique qu'en arrivant à l'université, il a l'impression d'être ultra abouti, qu'il est en fait en train de dépasser toute sa famille parce qu'en fait il a été plus loin que le bac. Et en fait, plus il évolue, plus il se rend compte qu'il y a toujours des gens au-dessus, en fait, que les gens, les vrais bourgeois savent qu'il ne faut pas aller à la fac. Mais non, il faut aller à l'ENS ou il faut faire des prépas. Et tout ça, il n'en avait pas entendu parler. Donc il t'explique comment en fait sa pensée s'est construite et comment il a su concrètement se réinventer pour être sur des attentes toujours plus hautes, toujours plus difficiles. Et en fait, bosser, mais comme un gros, gros taré, mais pas seulement sur les cours, pas seulement sur le côté culture, parce qu'il explique qu'il a lu des livres, mais genre, il en lisait une dizaine par mois, quoi. Enfin, vraiment un truc invraisemblable, mais c'est aussi même bosser sur la gestuelle, sur la façon de se tenir. Il explique qu'il passait des heures à rire devant un miroir, pour rire comme un bourgeois. Il explique qu'il a aussi passé des heures chez le dentiste à se faire mais défoncer la mâchoire parce qu'il avait des dents globalement dans un état pas ouf, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, il essaie de reconstituer vraiment l'univers mental dans lequel il était à ces moments-là. Et je trouve ça très intéressant et très fort de réussir à faire ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il est à milieu de tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, quand tu enchaînes des interviews, que tu sors de France Inter, compliqué de restituer l'état dans lequel tu étais il y a même 3 ans quand ta vie, elle a aussi radicalement changé.
Oui, et quand le bout de ton monde, c'était la fac d'Amiens, et que là, tu peux te repérer sans regarder les panneaux chez Radio France, effectivement, ça doit être un peu dur de se remettre dans à quel point... Enfin, qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, quoi.
C'est clair. Et je trouve que c'est quelqu'un qui reste aussi très politisé et qui prend pas sa propre expérience comme une preuve que si on veut, on peut. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup combattu ce discours, justement. Ce qu'on appelle le discours un peu de la méritocratie, voilà. Et qui explique, enfin, qui s'est vraiment transformé dans la souffrance et qui l'a fait beaucoup au prix des relations avec sa famille, déjà, parce qu'il a perdu de vue un peu tout le monde et il s'est mis pas mal de gens à dos. Et puis, ouais, il a été très seul là-dedans. Il a perdu même des amis qui s'étaient fait, comment dire, il parle beaucoup des femmes qui l'ont accompagné dans cette transition, et en fait il a perdu les gens à chaque étape, parce que quand il montait d'un cran, il perdait les gens du cran d'avant, entre guillemets. Donc voilà, je le trouve super intéressant, super nuancé, et puis j'ai appris aussi quelque chose que je savais pas, c'est qu'il s'est prostitué en fait en arrivant à Paris, je crois. Et ça, j'étais pas du tout au courant. Et en fait, il y a toute une réflexion sur les sugar daddy ça existe vraiment dans la vraie vie. Et en fait, c'est pas glamour, hein, c'est pas romantique, mais ça lui a permis de se faire payer un dentiste hors pair pour avoir une belle mâchoire. Ça lui a permis d'avoir parfois un logement. Enfin, voilà, ça répond en fait à des choses très matérielles. Et c'est loin d'être aussi glamour que ah, daddy, give me money, tu vois. Enfin, c'est quand même un poil plus complexe. Et je trouve très intéressant.
On le mettra dans la description. On a un témoignage sur Mademoiselle d'une meuf qui avait fait sugar baby, qui est donc juste un terme pour dire c'est du travail du sexe. Hein. Les sugar daddy sont des clients de travail. Enfin, parce qu'il y a aussi ce côté édulcoré du terme où t'as l'impression qu'en gros, le mec il va juste te filer des sous pour exister. Globalement, il veut quand même que tu lui suces la bite à un moment, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est quand on se rend compte que ça se fait beaucoup moins dans l'autre sens, c'est généralement, ça met une bonne puce à l'oreille dans les dynamiques hétéros. Il y a beaucoup moins de mecs sugar baby. C'est pas anodin. Et donc, on a ce témoignage d'une meuf qui a fait ça pendant ses études, aussi pour des questions d'argent, et qui a beaucoup de recul sur le truc de, en fait, c'était du travail du sexe, c'était de la prostitution, et c'est pas quelque chose qui était épanouissant, glamour, etc. Parce qu'en plus, c'est des sites qui targetent beaucoup les jeunes, et les jeunes en galère, justement, en disant argent un peu facile. Mais on n'a pas la perspective d'un homme qui a fait ça. Donc, c'est intéressant d'avoir ce background en plus, quoi.
Absolument. Et je trouve que ça aborde aussi pas mal de questions très pratiques par rapport à ça, encore une fois, de comment ça se passe quand t'arrives à un rendez-vous, que le mec ressemble pas à ses photos, et genre t'as zéro désir, le mec te demande clairement de lui faire une sodomie, et t'arrives même pas à avoir une érection parce que le mec te dégoûte en fait. On arrive avec cet élément vraiment brut de « on fait quoi maintenant ?» Et là, tout de suite, c'est un peu moins sexy que pas mal de discours. Après, on pense qu'on veut de la prostitution, mais il y a pas mal de discours, je trouve, qui vont vraiment faire abstraction de ces réalités un peu brutes de comment on fait concrètement là, tout de suite.
Oui.
Et je trouve que le roman essaie de vraiment se rappeler à du là, tout de suite, maintenant. Et ce qui fait du bien. Mais par contre, tu vois que c'est un mec qui a l'air d'être vraiment malheureux, mais c'est très, très difficile de vraiment... retrouver l'insouciance, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a eu une enfance malheureuse et en même temps, il y a des moments où il regrette parce que je pense qu'il est dans une vie quand même très très compliquée. Quoi. Et qu'en essayant de chasser un démon, il s'en est trouvé 5 autres. Quoi.
Oui, je pense souvent dans les. Donc ce que tu racontes, ça me rappelle Illégitime de Nesrin Slaoui, qu'on avait interviewé sur Mademoiselle l'année dernière, qui est une jeune autrice qui a écrit son bouquin, notamment sur. Donc Illégitime, c'est sa vie de transfuge de classe, en partie parce qu'elle est racisée, ses deux parents sont marocains, et en partie parce qu'elle elle vient pas d'un milieu bourgeois, et elle a fait Sciences Po, maintenant elle est journaliste et tout, et donc elle a aussi beaucoup ce discours très pratico-pratique sur les techniques qu'elle a dû mettre en œuvre pour connecter avec les gens beaucoup plus bourgeois qu'elle de Sciences Po. Elle disait que, par exemple, elle passait beaucoup de temps à rattraper toutes les connaissances de culture G que tout le monde citait comme ça en mode détente et qu'elle, en fait, ses parents, ils regardaient pas des films d'Audiard, en fait, parce que c'est deux immigrés marocains qui travaillent, qui ont une autre culture, qui ont d'autres goûts. Moi, ma daronne, elle regarde pas non plus les films d'Audiard, elle s'en fout. Par contre, elle m'a fait écouter Umkelkum, c'est aussi une culture. Mais il y a aussi dans cette volonté qui est, je trouve, toujours... salvatrice de pas nourrir le discours méritocratie quand on veut ou peut. Elle est pas dans un truc de je l'ai fait donc tout le monde peut le faire. Elle est dans un truc de je l'ai fait, c'était pas facile et c'est un problème que j'ai dû faire ça. Et pourquoi je disais ça? Attends, je vais y arriver. T'as bouclé sur. T'as dit quoi juste avant?
Ah, je m'écoute pas moi. Moi je suis en roue libre.
T'as un casque, t'es le seul qui écoute. Non, attends, je vais y arriver. T'as dit. Oui, donc illégitime, Nesrin Slaoui.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc t'as dit travail
du sexe. Qu'il avait l'air très malheureux.
Le fait de ramener ça au présent peut-être ?
Non, oui, pardon. J'ai retrouvé. Et je trouve que c'est toujours aussi intéressant parce qu'il y a forcément une forme de paradoxe où en devenant transfuge de classe, en t'élevant de ta classe sociale, tu deviens partie prenante du système. Enfin, tu passes du côté de l'oppresseur, quoi. Et comment tu fais la paix avec le fait que t'es passé de l'autre côté de la barrière et dans les yeux des petits jeunes prolos que t'étais, t'es un bourgeois comme un autre qui passe sur Radio France, qui a des vidéos Loopsider, tu vois, comme Nesrin Slaoui et tout. Et c'est une réflexion que je trouve très intéressante de comment tu... peux tout à fait légitimement, toi, vouloir t'élever dans la société dans laquelle tu vis pour atteindre un niveau de vie plus confortable et tout simplement plus d'opportunités et vivre une meilleure vie. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais une fois que tu y es, t'as conscience des inégalités puisque t'en viens. Et comment tu fais pour changer? Est-ce que tu peux niquer le système de l'intérieur? C'est un peu la grande question de la gauche, finalement. Donc, je trouve ça intéressant.
Ah, puis ce truc de est-ce que c'est pas déjà trop tard? En fait, à partir du moment où on te propose d'être porte-parole, souvent, c'est que t'es plus vraiment dans la classe que t'es censé représenter. C'est ça qui est un peu compliqué aussi avec quelqu'un comme Edouard Louis. Vous l'écoutez parler, enfin... Il représente que lui, en fait. C'est ça qui est terrible. Mmh. Mais il est condamné à ne représenter que lui parce qu'en fait, il ne les fréquente même plus, les gens dont il parle dans ses livres. Et c'est pas un reproche que je lui fais parce qu'en fait, c'est sa propre vie. Et je trouve qu'il le fait avec une certaine humilité, mais c'est une vraie, vraie question. Et puis, du coup, il y a un dernier point du livre, mais ça revient un petit peu sur ce que je disais sur la prostitution, que je trouve intéressant et qui a l'air vraiment propre à l'identité gay. Encore une fois, contexte, moi je suis bisexuel, du coup je relate à certains trucs et pas du tout à d'autres, mais on a l'impression quand on lit Didier Ribon, quand on lit Edouard Louis, donc Didier Ribon qui est du coup un auteur qui a écrit notamment Réflexion sur la question gay et qui a écrit Retour à Reims, qui a écrit pas mal de livres aussi sur la question du transfuge, juste c'est pas du tout la même génération qu'Edouard Louis.
J'aime bien quand tu mets du contexte. Oh là là.
Sans qu'on me demande, en
mais
plus.
Oui.
Je suis un bon élève.
C'est le métier qui rentre.
Absolument. Mais du coup tu te rends compte que la sexualité c'est à la fois la porte de sortie d'un milieu, dans le sens où il explique qu'il est vraiment rejeté par pure homophobie dans sa famille, chez ses proches. Enfin, évidemment, il a tout le passé de harcèlement au collège, mais qui atteint vraiment des seuils assez vénères. Et je trouve, du coup, par exemple, le film d'Anne Fontaine là-dessus était particulièrement édulcoré et un peu consensuel de « Ah là là, le harcèlement, c'est mal, bouh !» Voilà, parce qu'elle n'est pas beaucoup plus loin. En même temps, c'est aussi une porte d'entrée dans un univers. C'est-à-dire que ce truc des sugar daddy, mais le simple fait d'arriver dans une boîte gay ou dans un bar gay, c'est un endroit où tout de suite, tu vas pouvoir accéder à une forme de privilège instantané de faire des repas avec du champagne à je ne sais pas combien d'euros, tu vois. Et tu peux avoir accès à ça juste parce que tu es désiré par un mec de 50 ans. Ce qui pose
ça veut aussi
plein de
dire
questions.
Qu'à la base, t'as une forme de privilège d'être désirable. T'es dans les canons de beauté, tu vois.
Contre,
je pense
oui.
que si t'es un jeune gay non valide et obèse, tu vas embarguer. Je suis pas sûre que t'as du champagne gratuit.
Mais bien
tu vois.
Sûr.
Donc, c'est ça, derrière ça, chaque chose, il y a
mais exactement,
des
mais
questions
ça,
sociales.
Ça mélange plein de rapports de pouvoir. Et du coup, voilà, je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que j'ai lu ce livre en plus en arrivant dans un moment de ma vie où je découvre aussi plein de choses. Et je découvre aussi les sociabilités gays parce que, encore une fois, moi j'ai été en couple depuis mes 19 ans et j'ai enchaîné une relation longue avec une meuf et une relation assez longue avec un mec. Et du coup, j'avais jamais vraiment daté avant. Et je vois les dynamiques de pouvoir parfois dont il parle et je fais putain, oui, c'est vrai que ça, c'est un truc qui arrive. C'est un truc qui arrive de te balader et de voir des mecs de 50 ans te regarder et pas voir le problème en fait, tout simplement, à envisager une relation même sexuelle avec toi. Moi, ça me pose souci. Voilà!
Trop bien. Passionnant.
C'est super intéressant.
Ouais. Tu vois que c'est un vrai livre. Il n'y a même pas d'image dedans. La semaine dernière, il a dit que les synopsis et les pièces de théâtre, c'était pas des vrais livres. Donc.
Mais non, mais je dis ça pour...
C'est le snob.
Mais bien sûr, mais je suis un faux snob.
Comme Galindi, paraît-il.
Trop envie pas de le lire snob. Et de... Enfin non, de l'acheter et de le lire dans 5 ans, parce que comme je lis vraiment un livre par... un livre sur un an, je vais sûrement l'acheter et le lire dans très très longtemps. Mais
ça
bon.
Se lit très très bien aussi. Contextualisation, c'est très facile à lire.
Ouais,
enfin, c'est un langage assez simple, mais comme Annie Arnaud, c'est des auteurs où c'est... assez brut, donc vous avez des phrases ouais. simples au présent de l'indicatif, quoi. Vraiment, vous inquiétez pas.
Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce genre de style. Mais en plus, ça a l'air d'être une histoire intéressante dans le sens où c'est aussi notre époque. Parce que les histoires d'ascension sociale comme ça, c'est des trucs qui ont été super explorés dans la littérature classique et tout. Mais bon, on peut pas trop relate parce que c'est pas du tout notre époque. Genre, Bel Ami, moyen de relate.
Tu t'identifies pas à fond dans Bel Ami.
Vite fait.
Après, t'as des adaptations au film typiquement qui réactualisent pas mal. Je pense à Illusion Perdue qui avait un truc très contemporain. Je sais pas si vous avez vu Illusion Perdue au cinéma. Je fais un kiff derrière un kiff. Vachement bien le film.
Ça a l'air trop bien. Ouais.
Avec un casting de zinzin. Donc il y avait Benjamin Lefebvre qu'on a vu dans Été 85. Il y avait Xavier fucking Dolan qui parle français sans aucun accent. Donc à tous les gens qui se moquent de l'accent québécois, sachez l'imiter aussi bien que les Québécois imitent le nôtre.
C'est vrai. Nous n'avons plus Alix pour l'imiter très bien.
C'est vrai qu'elle le faisait bien.
Oui. Et je ne vais pas m'essayer à le faire.
Clairement pas.
Ça va m'embarquer là-dedans.
Mais voilà, il y avait aussi Jeanne Balibar, Cécile de France, enfin voilà, tout un casting de zinzin. Et le film était vraiment très, à la fois assez fidèle au livre original de Balzac, machin et tout. Mais en même temps, c'est pas pompeux, c'est assez relatable de notre époque de voir l'ascension du type qui sort d'Angoulême, qui est un espèce de jeune poète avec plein d'espoir et qui finit complètement corrompu. Ah oui, il y a Lacoste aussi.
Le j'aime pouvoir pas corrompu. Lacoste,
mais là, il est vachement bien. Et là, vraiment, ouais, il est fini, quoi. Il est pourri à Paris et il repart, évidemment. C'est la déchéance ultime. Enfin, voilà, c'est
wow,
un truc classique. Mais c'est très bien à voir aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que c'est chouette d'avoir des productions aujourd'hui qui parlent de ce que c'est. Avec les institutions d'aujourd'hui, les normes d'aujourd'hui, de grandir. Ouais. Et j'arrête de parler.
Et en France, parce que souvent c'est des récits américains anglo-saxons. Oh là là.
Oui, avoir ça rien à voir.
C'est cool d'avoir des voix françaises. Moi, j'ai spécialement résonné avec Nesrine Slaoui parce qu'en plus c'est une femme et en plus elle est d'origine marocaine. Mais c'est cool d'avoir une pluralité de voix françaises qui parlent de ces sujets-là et qui sortent un peu de ce côté. En France, l'ascenseur social marche hyper bien, on voit pas les couleurs, tout ça. Genre, la réalité est quand même légèrement différente. Merci pour ce kiff passionnant, Mathis.
Avec grand plaisir.
Audrey, quel est ton premier kiff de 2022?
Mon premier kiff de 2022. Alors d'habitude, je parle toujours de cul. Là, je vais encore, je vais encore parler de cul, mais cette fois-ci, un peu différemment.
Sinon, les gens, ils auraient arrêté l'épisode. Hein. Ils auraient fait, oh, bah non.
Ça m'intéresse pas. Je vais parler de fesses. Donc, c'est un petit peu la même chose. mais du coup, je vais vous parler du documentaire de Rokhaya Diallo, qui est sorti sur France TV Slash, qui s'appelle Beautiful. Comme les fesses en anglais.
Tout à fait.
et donc j'ai eu l'occasion de l'interviewer, donc vous pouvez aller voir l'article complet sur Mademoiselle, mais je vais vous en parler un petit peu. Donc en gros, c'est un documentaire qui parle de fesses, de popotins, et particulièrement des grosses
fesses. Est-ce qu'on va faire toutes les alternatives dans ce podcast?
J'ai plein de synonymes.
N'en attendez pas moi,
les
ton
derrière,
métier.
Les... et en fait...
Séant. De quoi le séant, c'est le best.
Bien, oui, ça, c'est vraiment beau.
Je vous mettrai l'article dans la description, d'ailleurs.
J'ai passé dans l'article tous les synonymes possibles. et voilà, donc en fait, le documentaire est hyper intéressant. C'est un sujet qui peut prêter un peu à sourire, comme ça, un documentaire sur le fessier.
Encore un synonyme. Pourtant.
Et pourtant, il y a tellement de choses à dire. Et dans le documentaire, elle a fait venir plein d'expertes. Différentes, des historiennes, voilà, etc., des féministes, des travailleuses du sexe, voilà. Et en fait, c'est l'histoire des fesses est super intéressante. Et donc, ça parle notamment de la racialisation des fesses, parce que ben, les femmes noires, on leur prête souvent un gros fessier, alors que bon, déjà d'une, c'est pas toujours vrai. Et puis, ça a été vachement sexualisé. Mmh. Et elle parle aussi de twerk. Du fait notamment que, de base, c'est une danse qui a été issue d'une communauté en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et c'était pas du tout sexuel, c'était vraiment quelque chose de culturel, etc. Et ça a été beaucoup repris et beaucoup sexualisé. Et assez mal vu, en fait, au début.
C'était la danse vulgaire par excellence. Ce qui est toujours un mot, surtout quand une meuf fait un truc et qu'on dit c'est vulgaire, ça allume une petite alarme de...
Red flag. Ouais. Et voilà, ce qu'elle raconte le documentaire, notamment sur le twerk, c'est que au début, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas du tout sexualisé. Ensuite, ça a été quelque chose qui a été vachement détesté et voilà, on disait que c'était hyper vulgaire, surtout dans les clips de rap, etc. Et puis une fois que ça a été un peu récupéré par des personnes blanches, notamment Miley Cyrus, à qui on prête l'invention du twerk.
Alors, faux, archi-faux.
C'est complètement faux.
Évidemment qu'elle a inventé le twerk.
Déjà, quand tu vois comment
elle
le fait
pas très bien.
Ça dénonce.
Voilà.
On va pas en parler. Mais
elle écoutera jamais ça, j'allais dire. On l'adore. Hein.
On l'invite. Viens, Maïlé, dans LMK.
Viens te défendre.
Droit de réponse, Miley Cyrus.
Ouais, c'est ça, droit de réponse, Miley Cyrus. Mais du coup, ce qui était vachement intéressant là-dedans, c'est de voir comme beaucoup de choses culturelles. Comme c'est quelque chose qui parfois va être très longtemps pointé du doigt, notamment par le côté vulgaire, soi-disant. Et puis ensuite, quand ça va être récupéré par des personnes non racisées, tout de suite, ça va être,
une
ça
thérapie.
Va être à la mode, ça va être cool, ça va être positif, etc. Donc ça, c'était intéressant de le voir. Et puis sur les fesses aussi, c'est un peu la même chose. Les grosses fesses, moi je sais que quand j'étais au collège, c'était pas du tout à la mode et on se moquait beaucoup de, des gros fessiers. C'était plutôt les gros seins qui étaient les gros seins petites fesses qui étaient un peu la norme.
De ouf. Alors si jamais, pour les plus jeunes qui nous écoutent ou si vous avez oublié, c'était quoi les canons de beauté des fesses au début des années 2000. Ouais. J'ai re-regardé Lost il y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que dans Lost, il y a des meufs bonnes. Tu sens qu'elles les ont castées parce qu'elles sont bonnes. Il y a notamment un personnage qui s'appelle Shannon qui est joué par Maggie Grace. Pour info, c'est la meuf dans les Taken avec Liam Neeson, voilà, qui est une meuf assez superficielle, qui adore bronzer en bikini. Et t'as Kate, le personnage féminin principal, qui est quand même Evangeline Lilly, très séduisante. T'as deux, trois plans boules un peu gratuits. Et j'étais là, mais elles ont pas de cul.
Ouais, c'est ouf.
T'as des plans boules limite au ralenti. Je suis là, mais on filme quoi, la fratée? Il y a pas de dénigrement de leur physique. Moi, j'ai pas un cul non plus de ouf. J'étais vraiment en mode, ah ouais, c'était ça. Dans les années 2000, un cul séduisant, c'était un cul de meuf séduisant.
Ah
c'était
bah, vraiment
hanche très étroite et un tout petit peu de renflement. Et c'est tout, quoi. Alors, ouais. C'est Kardashian, quand même, ça change, quoi.
Mais c'est Ovidie qui parle dans le documentaire du fait de le cacher, même avec la veste nouée autour de la taille.
C'est ce que je faisais. Bah, exactement ce que je faisais. Moi, je portais des jeans taille 40. Je faisais pas du tout. Enfin, plus même, juste pour être toujours large. Et un jour, il y a une meuf qui m'a dit, mais c'est pas du tout ta taille de jean. J'ai fait, oui, mais si je mets des leggings, on va vraiment me faire chier. Donc, j'ai pas envie.
C'est ça, exactement. Je me souviens aussi que j'étais vachement dénigrée pour ça, comme d'autres meufs qui avaient des grosses fesses. Et au contraire, c'était les personnes qui avaient un plus gros bonnet que je n'ai pas,
qui était dans
les normes de beauté de l'époque. Et là, vraiment, je pense que vous avez tous et toutes remarqué que ça a vachement changé. Et que maintenant, la norme de beauté, c'est les grosses fesses. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, notamment, qui se font opérer pour avoir des grosses fesses, et toutes petites tailles fines, etc. Et donc, elle m'a parlé de cette évolution-là. Et pareil, c'est un peu à partir du moment, où Kim Kardashian a été mise en avant pour ces attraits-là que c'est devenu à la mode. Mais des grosses fesses, les personnes en avaient avant, notamment des personnes noires, par exemple. Et encore une fois, c'est quand c'est une personne non noire qui est mise en avant pour ces attraits-là. Notamment parce qu'en plus, Kim Kardashian joue vachement là-dessus, sur tout ce qui est... tous les traits, toutes les caractéristiques qui sont liées à la culture des personnes afrodescendantes, etc. Et donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et ce qui était vachement aussi intéressant dans le documentaire et dans l'interview que Rokaya m'a donné, c'est que, maintenant, on aime les grosses fesses, mais on aime les grosses fesses sur les personnes minces. On n'aime pas
on aime un type de grosses fesses, quand même.
Ça, c'est ça. On aime des grosses fesses avec des personnes qui ont une taille fine.
Pas trop de cellulite, trop de vergétures,
un truc qui
pas de culotte de cheval, ça soit tight. Enfin, franchement, il y a plein de meufs, genre tu sais, les pubs sur Insta et tout, t'as toujours des publications sponsorisées avec des meufs ultra gaulées. Je suis là, en fait, je ne comprends pas comment ce jean peut à la fois passer tes fesses et être tight sur ton ventre. Genre, moi j'ai quand même des hanches larges et un petit cul présent. Je suis là, mais en fait, si le jean y passe mes fesses, il va être trop grand la taille, c'est impossible.
C'est mon éternel problème.
Bah, je sais pas comment font ces meufs. Est-ce que c'est que des trucs en élastane?
Oui, c'est ça, c'est des leggings, c'est pas des jeans. Hein. C'est vraiment c'est des trucs, je sais plus quelle marque, Fashion Nova, tout ça. Déjà, c'est pas confortable. C'est vraiment juste, tu respires plus et t'es serré, t'as chaud. Enfin, vraiment, et puis c'est jamais de la bonne qualité. Un vrai jean, oui, quand t'as des fesses, toujours derrière, t'acceptes le fait que tu vas bailler sur le bas. C'est comme ça. Mais c'est super intéressant.
Ouais, c'est super intéressant. Et notamment, je sais plus, je crois que c'est Kiyemis qui parle dans le documentaire du fait que on aime les grosses fesses, mais pas sur les gros corps, quoi.
Ouais, je crois que c'est.
Ouais, et c'est super intéressant parce que on pourrait se dire, maintenant on accepte un petit peu plus de morphologie puisqu'on aime les grosses fesses, mais il y a toujours ces injonctions-là, en fait, c'est toujours quelque chose d'impossible et d'inatteignable pour la plupart des personnes.
Et la silhouette Kim Kardashian, déjà, elle n'est pas née avec, clairement.
C'est ça,
oui, voilà. Il y a beaucoup de travail, de sport, mais aussi de chirurgie qui est passée par là. Plus après, elle ne se cache pas, elle vend des body sculptants, elle vend des gaines qui sont un peu des wonder bras pour fesses et tout, donc elle prétend pas que tout ça est naturel, mais le risque c'est de se dire qu'on peut avoir naturellement la même chose alors que déjà on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes gènes, et en fait c'est pas non plus comme si Kim Kardashian on la voyait au réveil sans maquillage à poil, quoi. On sait pas vraiment à quoi elle ressemble quand elle a pas tout ça, donc c'est pas forcément une silhouette qui est atteignable pour 99% des meufs,
vraiment,
je pense, même s'il doit y en avoir qui l'ont de naissance, c'est rare, quoi.
Oui, c'est très très rare, et puis comme expliqué dans le documentaire, c'est de nouvelles injonctions au final. On a l'impression que c'est un peu libérateur, mais au final, pas tant que ça. Après, dans le documentaire, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait aussi l'autre face de ça, c'était que, notamment avec la boutithérapie, truc que j'aimerais beaucoup essayer, c'est des cours un petit peu de danse, etc. C'est pas vraiment du twerk, mais voilà, c'est voilà, bouger ses fesses, en gros. Et la personne qui donne ces cours-là expliquait que dans beaucoup de cultures, en fait, les hanches, c'était un peu le siège des émotions et que du coup, les secouer, les bouger, ça avait un côté hyper libérateur.
Mmh. C'est intéressant,
ouais.
De ouf.
Ouais, c'est super intéressant. Et puis, ces cours-là de boutithérapie acceptent toutes les formes de fesses, en fait. C'est pas juste les grosses fesses et les petites hanches, etc. Mmh. C'est même les petites fesses, les gros corps, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir toute cette historique sur les fesses. Et aussi, comment est-ce qu'on voit les fesses aujourd'hui, quel est le regard aujourd'hui sur les fesses. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est en parlant avec elle, Rokaya m'a expliqué que... Enfin, je lui ai posé la question, et les fesses des hommes? Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce que c'est pas du tout sexualisé, c'est pas une partie du corps qui est sexualisée.
Pas chez les hétéros, en tout cas.
Pas voilà. Chez les, c'est ce que j'allais dire, pas chez les hétéros. Mais du coup, c'est super intéressant de se pencher sur...
De toute façon, les hommes, question. En général, ils ne savent pas être objet de désir. Hein. Enfin, les mecs hétéros, tu les regardes un peu longtemps, ils se disent « mais il veut se battre ». Non, je te trouvais juste mignon, mais je vais y aller.
En fait, j'ai rien dit.
Mais tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, les torses, les pectoraux, ça peut être sexualisé. Ça, oui, mais les fesses, ça ne l'est pas du tout. Et
de toute façon, c'est la silhouette en V où globalement, le bas du corps, il disparaît dans la brume.
Mystère. Il y a le grand... stigmate de si on désire les fesses des hommes, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut pas mettre
c'est
des choses dedans?
Ça,
c'est non,
attention,
non, mais péché.
Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est
parce que j'ai déjà entendu plein de meufs hétéros dire un peu genre ouais, il a un beau cul et tout, mais c'est vrai que les mecs hétéros n'ont pas forcément non plus envie d'attirer l'attention sur leurs fesses parce qu'ils sont un peu en mode.
Non,
c'est une no-go zone.
Ouais, si t'es une meuf et que tu dis ça,
porter un jean qui te fait un joli cul sans aller derrière te faire enfiler, c'est possible aussi.
Mais c'est archi intéressant le côté c'est pas sexuel, enfin la sexualisation des fesses, parce que en fait, moi, comme je fais de la danse hip-hop depuis super longtemps et que dans le hip-hop new style, le twerk c'est devenu partie intégrante de plein de steps qu'on apprend. Et en fait, quand t'es dans un cours où soit c'est des gens qui dansent depuis des années, soit c'est forcément des gens pas très timides ou quoi. Enfin, en fait, il y a un truc de... Nous, on pense même pas à ça. Enfin, on est méga sexy. Moi, j'adore aller dans des cours où les meufs, elles sont super sexy. Elles dansent en maillot de bain avec leur string qui dépasse du jogging. Mais il n'y a pas du tout ce truc de... Enfin, il n'y a aucune... Bizarrement, tout d'un coup, la dynamique de est-ce qu'on va me regarder bizarrement, est-ce qu'on va me juger, elle n'y est pas du tout. Parce que, en plus, quand t'es entouré de gens qui sont des pros, ils en ont rien à foutre parce qu'ils savent très bien que leur corps, c'est leur outil de travail et qu'ils sont là pour performer. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la sexualisation. Et je pense que ça revient à ce truc de, dans certaines cultures, c'est un truc qui a toujours existé. Et donc, le problème, c'est plus la sexualisation de ça et c'est pas le fait que ça existe, quoi. Donc, c'est limite énervant que ça soit sexualisé à ce point parce que,
ouais,
du coup, c'est plus, ça cause plus de problèmes alors qu'à la base, ça fait partie d'une culture et de la danse en général, quoi.
Ouais. Et puis, j'ai vachement discuté aussi sur le fait que, par exemple, des chanteuses, des rappeuses qui jouent vachement là-dessus, par exemple, Nicki Minaj, etc. Mmh. Elles étaient vachement critiquées pour ça et on disait qu'elles étaient pas féministes pour ça. Et évidemment, on va le rappeler encore une fois, mais genre, le féminisme, c'est tout simplement faire ce qu'on veut avec son corps si on a envie de le couvrir ou de le découvrir. Pour moi et pour nous, je pense que c'est ça le féminisme.
Clairement.
Mais du coup, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est vachement lié aussi à l'expression de son désir et de son plaisir en tant que femme, je pense aussi. Cette critique-là, par exemple, de Nicki Minaj. Parce que même dans ses paroles de chansons, dans ses clips, etc.
On peut dire qu'elle assume sa sexualité.
Elle assume sa sexualité, elle assume son désir, et puis elle montre ses formes, etc. Et je pense que c'est ça qui dérange.
De toute façon, t'es toujours en deux feux, parce que du coup, si t'es Nicki Minaj, t'es pas féministe pour une partie des féministes qui trouvent que tu fais le jeu de la sexualisation. Et pour une partie du reste du monde, tu vas pas être une vraie rappeuse parce que t'es obligée, entre guillemets, de te sexualiser pour que les gens s'intéressent à ton truc. Alors qu'en fait, quand 50 Cent, il est pectorobile. Waouh, bodybuildé, pectoraux à l'air, tout huilé et tout, dans ses clips, on ne dit pas c'est pas un vrai rappeur parce qu'il est obligé de faire le beau gosse, tu vois, pour que ça marche.
Bah ouais, complètement.
Donc, c'est clair.
C'est juste toujours trouver des façons de dénigrer ce que font les femmes en les rapportant à leur corps et à leur sexualité, alors que Nicki Minaj, elle fait plein d'autres trucs que montrer ses fesses et on n'en parle pas autant parce que peut-être ça fait moins vendre, ça fait moins de clics sur les médias.
Oui, c'est ça.
Mais clairement, je trouve, c'est aussi, tout ce que tu racontes, je trouve que c'est quand même une preuve que la représentation, c'est important parce que je pense que c'est aussi parce que c'est une femme racisée qui a fait ce documentaire que tous ces aspects-là oui. sont abordés.
Ah oui.
Qu'il y a des intervenantes, comme tu parlais de Kiemis, qui est une autrice et poétesse afroféministe française. Honnêtement, je suis pas sûre que c'est tous les réals de documentaires qui l'auraient interviewé pour ça, tu vois.
Non,
et voilà, je dis pas qu'un mec blanc peut pas faire un documentaire intéressant sur les fesses, mais je pense que une voix et un vécu de femme noire qui, en plus, voilà, c'est pas une femme asiatique, par exemple, qui est beaucoup moins considérée au travers du prisme de son fessier ou non dans la société française. Il y a tout un vécu qui va derrière et tout un rapport au sujet qui fait que, bah ouais, on aborde aussi toute l'appropriation culturelle un peu qu'il y a pu avoir autour des grosses fesses et tout ce que ça pose comme question, quoi.
Ouais, c'est super intéressant. Puis il y avait des aspects historiques super, super cool aussi, notamment autour de la Vierge Hottentote. Je sais pas si vous êtes familier ou familière. Non.
La Vénus ou la Vierge?
La Vénus, pardon, j'ai dit la Vierge.
Bref, voilà, pas la même idée.
C'est un V.
C'est presque
la Vénus, qui venait d'Afrique du Sud et en fait on l'a un peu capturée et emmenée en Europe et elle avait vraiment voilà un gros fessier et en fait elle a été exhibée, elle a été analysée sous toutes les coutures,
bête de foire,
etc. Et bah c'est ça un peu, c'est la sexualisation et la, ce qu'elle dit bien aussi Rokhaya, c'est la racialisation surtout des gros fessiers et des fesses en général. Enfin bref,
intéressant. Il y avait aussi, je sais plus quelle intervenante du docu en parlait, il y avait aussi l'aspect de classe. Je crois que c'est Kiemis aussi qui en parlait. Ouais. Je la trouve brillante, enfin tout ce qu'elle dit à chaque fois.
Bravo. Fesses, du coup, c'est plus valorisé chez les personnes bourgeoises et tout que chez les personnes précaires.
Non, justement, bah tu vois une figure comme Kardashian, je suis pas sûr que quiconque de la haut bourgeoisie française se réclame de cette culture-là. Tu vois, c'est une culture qui est très populaire, qui est très. Bah ouais, justement, on parle du rap, etc. C'est pas forcément les codes dominants de la culture légitime, la sacro-sainte culture.
On n'a pas encore Isabelle Huppert qui twerk sur la scène des Césars. J'aimerais 2022, c'est quand vous voulez.
Oui, regardez l'image qu'on se fait de la haute bourgeoisie française. C'est des femmes globalement super minces et même super plates.
La parisienne, en fait. Comme on dit.
Mais justement, Rokhaya Diallo a fait un documentaire sur la parisienne pour déconstruire le mythe de la parisienne.
Rokhaya Diallo, fan account.
Bah, excuse-moi. Mais du coup, oui, je...
Je vois, c'est allé de voir.
Excuse-moi, on l'aime.
Mais bien sûr.
Mais oui, elle a déconstruit ce mythe aussi. Et oui, ouais. Ce que Kimi disait, c'était que oui, les grosses fesses, c'est à la mode en ce moment, mais effectivement, dans la culture plus populaire, dans la bourgeoisie, c'est toujours le corps mince, voire ultra mince qui prime, quoi.
Ouais, clairement.
Voilà.
Passionnant.
Regardez le documentaire,
hâte de le
voir.
Il est en hâte de le regarder. Vous aurez le lien dans la description. Vous aurez dans la description le lien de l'interview de Rokhaya Diallo par Audrey, ainsi que le lien de Bootyful.
Oui, c'est ça.
J'étais sur Bootylicious, j'étais là, non, ça c'est autre chose.
J'en ai parlé aussi dans le.
Évidemment. Bootyful, un documentaire déjà disponible depuis fin 2021. Merci Audrey.
Trop stylé. De rien.
Eva, what is your kiff?
Alors moi c'est un film qu'on m'a conseillé de voir en 2020 et je me suis décidée à le voir en 2022.
Donc tu vas aussi vite sur les films que sur les livres du coup.
Ce que j'allais dire. Ouais, non, autant je regarde plein de trucs qui sortent nouveaux, mais souvent quand on me dit « Ouais, regarde ça, c'est trop bien », je fais « Yes », je le note pour de vrai, mais après je le regarde vraiment pas tout de suite, quoi. Alors c'est un film qui s'appelle « The 40-Year-Old Virgin ».
Oh, 40 ans toujours plus ça?
Non.
Ah!
C'est un autre truc.
Tu t'es emballée, t'étais trop contente.
Je trouvais ça ouf de découvrir 40 ans toujours plus
ça. Ah non, ça je l'ai vu, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais quand même un peu plus longtemps avant.
Je range
c'est
ma
pas
culture,
du tout le
du
même
coup,
thème.
Je pense que ça va être plus culturel que ça.
Mais t'avais été conseillée super jeune, c'est gênant.
C'est super gênant.
Le temps que t'assimiles.
Alors c'est un film réalisé, écrit, et le rôle principal aussi c'est Rayda Blank. J'espère que je le dis bien, Blank. Et en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui habite à Harlem, dans notre époque. Hein.
Rien à voir,
vraiment.
Non, moi, j'ai Steve Carell qui se fait pile le temps dans la tête.
Non, mais moi, j'aime beaucoup cette comédie aussi. Hein, oui. Vraiment, pas du tout le même sujet, mais c'est vrai que ça rappelle le titre. On va dire que c'est pas si lointain non plus dans le titre. Et donc, en fait, en gros, on arrive dans sa vie à un moment où elle a réussi sa carrière dans sa vingtaine, où elle a réussi à monter une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès dans le monde de l'art new-yorkais. Elle a fait un peu de bruit. Mais là, elle a 40 ans et elle galère à trouver du financement pour faire sa seconde pièce de théâtre. Et elle n'arrive pas du tout à trouver comment avancer dans la vie. Donc, c'est super intéressant déjà cette dynamique de « c'est pas parce que you made it que ça reste au même point dans le monde artistique ». Et en fait, elle va se rendre compte à 40 ans qu'elle a envie de faire du rap. Donc aucun rapport avec ce qu'elle fait de base dans la vie, qui sont des pièces de théâtre un peu engagées. Donc c'est une afro-américaine qui parle aussi de la situation des afro-américains aux États-Unis dans le monde moderne, et donc même des violences policières, enfin de plein de choses différentes. Et tout d'un coup, elle va se retrouver à vouloir faire du rap, qui est aussi une forme d'art où tu peux parler de politique, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait. Et en plus, c'est une meuf de 40 ans, donc c'est vrai que c'est pas forcément la première personne qu'on imagine à faire du rap. Et en fait, donc c'est son aventure. C'est vraiment, enfin c'est réalisé d'une manière très intimiste où on la suit que elle et on est complètement à ses côtés et ça fait un peu penser au film de Spike Lee qui s'appelle She's Gotta Have It qui a un peu ce même univers, voilà, new-yorkais, bon pas du tout la même époque mais vraiment cette atmosphère super prenante où en fait on découvre la vie d'artiste et à quel point c'est compliqué de faire ce qu'on aime et en même temps de rester authentique parce qu'en fait elle a toute cette dynamique de on me propose des projets mais en même temps c'est pas du tout ce que je veux faire mais en même temps il faut que je mange et en même temps ça va complètement à l'encontre de mes principes dans la vie et en plus aussi cette idée de se réinventer à un âge où typiquement on te dit que ça y est c'est bon t'as fait ta life, t'as choisi ce que tu voulais faire et tu changeras plus, ce qui est une dynamique vachement, moi ce que j'aime bien dans le côté américain. Parce que j'ai rencontré pas mal de gens âgés, potes de mes parents ou quoi, qui sont là, de là-bas et qui ont beaucoup fait ce truc de se réinventer dans leur vie professionnelle. Et c'est un truc qui manque un peu en France, je trouve, des fois. Et voilà, c'est un film super drôle et émouvant. Et en plus, elle rappe bien. Donc c'est
j'allais
super
demander,
intéressant.
Est-ce qu'elle rappe bien?
Bah ouais, franchement.
Ça peut vite devenir cringe, sinon.
Non, justement, c'est pas cringe du tout. Ça pourrait l'être.
Ok, allez, ouais, yo, allez, yo, c'est yo. Parti.
Non. C'est ça, voilà, c'est pas du tout yo-yo-yo.
Ok, yo okay. Legends. Et alors, la street.
Open mic LMK.
On peut essayer.
L'angoisse.
Je fais du beatbox, tu sais, à base de bruit de salive, là. Je le fais vachement bien.
Franchement, j'espère que personne n'aura d'accident avec ça en fond.
Quelle horreur.
On vous le souhaite pas du tout, là. Yo-yo.
Franchement, le pronostic de la personne, je pense qu'il sera engagé davantage avec
la personne va abandonner. Elle va lâcher prise, elle va dire je vois la lumière, j'y vais, c'est horrible ce qui se passe.
Beatbox et tu.
On peut pas écouter ça. Mais ouais, non, du coup, c'est un super film qui est un peu... Enfin, je sais pas s'il est passé inaperçu. En fait, c'était genre, je pense, pendant le Covid, vraiment en plein dedans, et c'est sorti sur Netflix aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est disponible sur le Netflix français. Je crois que oui. Mais du coup, c'est dommage, parce que du coup, je crois... Enfin, ça a fait du bruit aux États-Unis quand même un peu. Ça a gagné des prix et tout, mais c'est sûr que je pense que ça aurait pu avoir beaucoup plus d'impact si c'était sorti normalement au cinéma dans une époque normale. Et en fait, bon, moi, je suis toujours très, très impressionnée par les meufs qui écrit, réalise et joue dans leur propre film. On pense à Issa Rae, on pense à Michaela Cole. Enfin, vraiment, moi, c'est un truc qui me... Parce que autant... je me dis, ouais, je pourrais grave écrire une super histoire, mais autant réussir à tout donner à ce point-là. En fait, elles se mettent complètement à nu et elles nous donnent tout ce qu'elles ont dans leur performance d'actrice et pour une histoire qui sont quand même... Enfin, c'est souvent des histoires très proches de leur vraie vie. Et ça se ressent énormément dans le film et je trouve que en plus, y a une atmosphère dans la réalisation. Voilà, c'est en noir et blanc. Donc, il y a tout un truc un peu qui nous rappelle justement les films new-yorkais un peu à l'ancienne, entre guillemets. Et je trouve que, enfin, vraiment, c'est un super, super film. Voilà, quoi.
Top.
Ça donne envie.
Grave. Bah ouais, grave.
Ça me fait un peu penser à la série Harlem.
Ah oui, j'ai pas vu cette série.
Il paraît que c'est bien, c'est nouveau, c'est ça?
C'est ouais, c'est nouveau, j'ai déjà
trop bien.
Je vais noter.
C'est cool. Après, j'aime pas tout. Il y a des trucs un peu clichés, mais dans l'idée, ça se passe à Harlem, c'est des personnes... Bon, elles sont un peu plus jeunes, elles ont la trentaine. Mais il y a cet aspect aussi, notamment avec l'un des personnages dont j'oublie le nom, mais pareil, qui veut devenir actrice, comédienne, etc. Et qui a ce dilemme-là de vouloir, rester dans son truc, mais en même temps, elle doit manger, donc elle accepte des gigs un,
ouais.
Un peu moins fun et tout. Donc ça m'a fait penser à ça, ça a l'air cool.
Et il y a une scène, sans spoiler quoi que ce soit, super relatable si on est artiste. C'est vraiment, elle pleure dans son salon, par terre, et elle dit « I just wanna be an artist !» Et vraiment, j'ai fait « Ouais !»
Quel mood.
Moi, c'est tous les dimanches.
c'est vraiment ça, quoi. Je pense que tous les gens qui font quelque chose d'artistique, ils se disent « Ah oui, oui, je connais un peu ce mood-là de remise en question constante de la vie. »
Ouais,
mais du coup, c'est super intéressant et puis elle est super touchante. Et du coup, voilà, foncez, allez le voir. Je sais pas où, mais je me renseignerai.
Je vous mettrai un lien dans la description, voilà. Vous tiens au courant.
Ouais, j'irai voir. Ça a l'air cool.
Merci Eva pour ce kiff qui m'offre une petite transition vers mon kiff puisque mon kiff je l'ai achevé hier et à un moment dedans ça parle de quelqu'un qui se demande si il va réussir à vivre de son art qui est le rap et la musique hip-hop ou pas. C'est quelque chose, je sais, les gens vont me dire, j'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais petit 1, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Petit 2, c'était il y a longtemps, il y a une nouvelle saison, il faut que je vous en reparle. Et petit 3, ça fait toujours plaisir, on en a besoin en 2022. Queer Eye est de retour sur Netflix depuis le 31 décembre où on a fêté la fin 2021 avec une nouvelle saison de 10 épisodes qui se déroule au Texas. Queer Eye, contexte, si vous n'avez pas et que vous n'écoutez pas Laisse-moi kiffer depuis le tout début. Queer Eye, c'est une émission de télé-réalité, on va dire Netflix, inspirée d'un concept qui existait au début des années 2000 mais un peu remanié quand même à la sauce plus moderne. Ça s'appelle Queer Eye parce que c'est 4 hommes gays et une personne non-binaire qui à chaque épisode vont voir une personne qui a besoin d'aide globalement dans sa vie et qui a été nommée dans l'aventure par généralement ses proches et l'aide en lui faisant un relooking, mais pas un relooking à la Christina Cordula où c'est juste cache tes bras et coupe-toi les cheveux. C'est plutôt de quoi as-tu besoin dans ta vie pour être la meilleure version de toi-même, qu'est-ce qui te bloque et comment on peut t'aider. Donc c'est que des trucs sur la confiance en soi, assumer pleinement qui on est, etc. Et ça a toujours été dans des coins un peu conservateurs des États-Unis puisqu'ils ont été en Géorgie notamment, qui n'est pas un état connu pour être... voilà, ils ne sont pas à Manhattan où tout le monde est à peu près habitué à voir 5 personnes queer qui se baladent. Il y a la personne non-binaire, mais aussi d'autres qui portent souvent des jupes, des robes, des choses comme ça. Donc ce n'est pas les mecs les plus dans la virilité traditionnelle toxique, on va dire. Et là, ils se retrouvent au Texas pendant 10 épisodes. Chaque épisode, ils vont voir une personne et ils l'aident. Et moi, Queer Eye, c'est ma... passion, parce que déjà c'est tellement feel good et j'avais peur du côté un peu, des fois c'est un peu dégoulinant les trucs à l'américaine, genre waouh, j'ai vraiment reconnecté avec moi-même et réussi mon rêve. J'avais peur du côté un peu gnangnan Disney.
RuPaul Drag Race, hein.
De quoi?
RuPaul Drag Race, il y a des moments comme ça où ça dégouline.
Mais il y a des moments, tu vois, c'est pas tout le truc, quoi.
Ah non, heureusement, ouais.
C'est pas un téléfilm de Noël non plus, le truc.
Ah,
j'avais peur du côté parfois un peu caricatural qu'on peut donner des hommes gays dans ce genre d'émission. Et au final, Queer Eye a vraiment réussi, ça fait quand même pas mal de saisons, ils ont vraiment réussi à transformer l'essai et à apporter quelque chose de très rafraîchissant dans la télé au sens large, dans le streaming. Et cette saison, je trouve, même si on peut se dire qu'en fait... on a à la fois un peu fait le tour du concept et en même temps c'est toujours bien parce que les personnes ont toujours un parcours touchant. Là c'est la saison qu'ils ont tourné pendant le Covid, donc en plus il y a des gens qu'ils n'ont pas pu, normalement ils font une semaine avec la personne, ou du coup pour expliquer, donc ils sont 5. Il y en a un qui gère la mode, un qui gère la Jonathan qui est non binaire mais qui est ok pour être genré au masculin, mais du coup je le précise quand même, qui gère la beauté, tout ce qui est cheveux, barbe, etc. Il y a un mec qui est la personne qui travaille le plus de l'émission, qui retape l'intégralité de ta baraque pendant une semaine pendant que toi tu te fais coiffer. Il y en a un qui t'apprend à cuisiner de façon saine et à revoir un peu ton rapport à la bouffe.
Mais c'est un crossover de toutes les télé-réalités.
C'est ça.
Moi j'aime trop.
Tu n'aimes pas choisir, il y a tout dedans.
Putain, t'as Valérie D'Amido et les autres.
Et Cyril Lignac et les maçons du cœur. Et Christina Cordula, il y a tout le monde.
C'est vraiment
non, mais j'adore.
C'est l'enfer.
Et ils arrivent tous à 5 et ils font beaucoup de bruit et ils adorent les chiens et essayer les vêtements des gens.
Oh,
et t'as donc la dernière personne, le dernier mec, Caramo, qui est semi-thérapeute. Enfin, il n'est pas thérapeute, donc il n'est pas. En fait, le truc, c'est qu'il n'est pas thérapeute de formation. Donc, il ne le présente pas comme un psy et comme l'expert santé mentale. Parce que, au bout d'un. Enfin, franchement, t'as une des personnes, là, épisode. Bon, il y a un épisode où il parle avec une personne qui a vécu. Qui a accueilli chez. Donc, c'est un mec qui a accueilli chez lui sa mère qui était en fin de vie, qui lui a lui-même administré le cocktail de drogue qui allait finir par mettre fin à sa vie, qui lui-même, à ce moment-là, était accro à la morphine, qui du coup en a pris aussi, s'est endormi dans le lit et s'est réveillé 6 heures plus tard à côté de sa mère morte.
Okay, ah l'enfer.
Caramo, il est pas psy. Il va pas commencer à aller apprendre à ce gars comment gérer ce trauma parce qu'il peut pas. Il sait pas et tu vois qu'il est là. Ouh là là.
Ouais.
Ouh là 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 là.
C'est quelque chose.
Gros morceau.
Ah oui, c'est intense.
Et le mec, il lui
ça.
Fait « Shit fucked up, man ». Et je suis là « Ouais, shit fucked up, man ». Donc voilà, il est pas thérapeute de formation. Et il l'appelle l'expert culture. Et en gros, son boulot, c'est voilà, tout l'aspect un peu santé mentale, on parle des blocages qu'il peut y avoir. En gros, comme les autres, ils ont chacun un truc à faire. Genre, oui, Jonathan, pendant la coiffure, on va aussi parler avec... Enfin, la personne va aussi parler avec Jonathan de son rapport à son corps, à son apparence, donc il y a un côté un peu thérapie. Mais Caramo, c'est le seul où son boulot, c'est juste de te parler et de t'aider à connecter avec tes émotions, avec les gens autour de toi et aux traumas qui peuvent te bloquer dans ta vie. C'est ça, c'est à ça que servent les 5 personnes de Queer Eye. Et donc dans cette saison au Texas, il y a 10 épisodes assez variés. Dans les premières, c'était vraiment une majorité de mecs hétéros qui étaient relookés entre guillemets par l'équipe. Parce que l'émission à la base, dont s'inspire Queer Eye s'appelait Queer Eye for the Straight Guy, donc un œil queer pour un homme hétéro. Et il y avait cette idée de des mecs gays qui vont apprendre aux hommes hétéros à prendre soin d'eux parce qu'ils savent pas le faire. Donc ça a été quand même modernisé. Dans les premières saisons, il y avait beaucoup de mecs, mais on entendait beaucoup plus prendre soin d'eux, non pas juste sur l'apparence, mais sur plutôt un rapport beaucoup plus sain à ses émotions et tout. Et à aussi venir challenger les normes de genre. Et en fait, t'as ces 4 gars et une personne non-binaire qui arrivent, qui vivent leur best life, qui s'habillent comme ils veulent, qui ont tous des parcours de vie. Il y en a un qui attend un enfant par GPA avec son compagnon. Enfin, il y a plein de choses à raconter. Et qui montre aussi par l'exemple que, en fait, tu peux être le type de mec que tu veux et être heureux et épanoui. T'es pas obligé de rester dans des trucs de masculinité hyper rigides. Donc au début, il y avait principalement des mecs qui étaient coachés par Queer Eye. Maintenant, il y a un peu plus de variété dans les profils. Et dans cette saison, il y a 2 épisodes qui sont côte à côte qui m'ont buté. Si vous voulez juste en voir 2 pour savoir si vous aimez bien, je vous conseille l'épisode 2 et 3 de la nouvelle saison. L'épisode 2, l'héroïne, c'est ma passion. C'est Angel. C'est une meuf, elle fait du soulevé de terre, donc de l'haltérophile.
J'ai eu peur quand t'as dit l'héroïne, c'est ma passion.
Mais non, oui, l'héroïne de cet épisode.
Avec ce qui s'était passé avec l'épisode d'avant, moi je sais pas.
Non, peu de toxicomanie dans ces 2 épisodes.
Pardon.
Donc, l'héroïne de cet épisode, c'est Angel. C'est une meuf qui est du soulevé de terre, donc elle fait de l'haltérophilie. Elle a des cuisses, des bras, mon gars, j'étais là, excusez-moi, elle a des trophées dans tous les sens et tout. Elle a 22 ou 23 ans. Et il se trouve que c'est aussi une meuf trans qui a entamé sa transition il y a 2 ans. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas tous les termes en tête, une meuf trans, ça veut dire qu'elle est née dans un corps qu'on a considéré comme masculin. Donc ses parents pensaient avoir un fils, les gens pensaient qu'elle était un garçon, et bien non, c'est une fille, et elle a entamé sa transition. Et du coup, il y a tout ce truc où, en fait, elle n'est pas encore habituée à gérer sa sensualité en tant que femme et son apparence en tant que femme. Donc tout ce qui est sport, en fait, elle porte ses vêtements de sport tout le temps. Alors elle est ultra gaulée, donc ça marche très bien, mais elle est voilà, en recherche de comment avoir d'autres options pour être à l'aise avec son corps de femme et tout. Il y a tout un truc qui est hyper intéressant, je pense, et qui est une question qui se pose souvent chez les personnes qui connaissent pas très bien les sujets de la transidentité, qui est, imagine mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie me dit que, en fait, bah, je suis pas un garçon, je suis une fille ou l'inverse. Bah, là, il y a la petite amie de Angel qui, du coup, sortait avec avant sa transition, qui est toujours avec et qui parle un petit peu de, sans que ce soit le focus, parce que le focus, c'est pas une personne cisgenre qui parle de c'est quoi une personne trans, mais ils en parlent un petit peu quand même, parce que c'est une personne hyper importante, forcément, dans la vie de Angel. Et il y a tout un discours sur son daron, qui est d'origine mexicaine, qui a eu beaucoup de mal, enfin, qui, au début de l'épisode, n'a pas accepté sa transition et ne lui parle plus depuis. Du coup, bah, évidemment, la question va se poser de est-ce que c'est possible de le contacter, de renouer un peu du lien avec l'accord de Angel, il faut qu'elle soit chaude pour ça et tout. Et en fait, enfin, l'épisode était ouf. La meuf a un sourire. Enfin, c'est incroyable. Au moment où Jonathan l'a maquillée, la coiffe, et du coup, la met dans des stéréotypes beaucoup plus féminins, elle se regarde dans le miroir et vraiment, ses yeux, ils s'illuminent en mode ah yes,
c'est trop mignon.
Yes, ça y est, c'est ça le truc. Et j'étais là, genre, j'ai crevé. Vraiment, j'ai chialé de façon très laide. Oh. Il y a tout le truc avec son daron. Le daron, il pleure. Tout le monde pleure. Et en fait, je me suis dit quand même, on entend de plus en plus que Netflix, ils forcent un peu avec les LGBTQ, ils sont hyper wokistes, ils mettent des quotas partout. Je pense que c'est pas 100% faux. Il y a vraiment des fois des productions Netflix où t'es là, ok, on a un peu coché toutes les cases de la série moderne, mais est-ce que ça raconte vraiment des choses intéressantes ? Mais là, je me suis quand même retrouvée devant Netflix avec une meuf trans haltérophile qui serre dans ses bras son père mexicain en larmes et qui se réconcilie. J'étais là, en fait, c'est quand même dingue de voir ça sur un truc aussi grand public avec tout le discours de l'épisode qui t'explique pile les bons trucs autour de en fait voilà la trans en fait à la fin c'est juste une meuf qui veut être heureuse et comment on peut être contre ça. Donc bon, j'étais au bout de ma vie. L'épisode sur Angel, regardez-le, il est trop bien et en plus ça donne plein d'idées de look parce qu'elle a un look hyper grunge et tout, genre ses tenues, j'étais là bonjour,
stylé.
On va chercher des petites dupes sur internet. Et l'épisode juste après, complètement un autre délire, c'est un gars, un éleveur de bœuf de genre 30 ans, qui est ultra machoman, donc il a un ranch, il élève du bœuf wagyu, donc le bœuf le plus cher du monde après le bœuf de Kobe. Il mange du bœuf tout le temps, du bœuf et des patates, il mange pas
c'est
de légumes. Il avait une meuf qu'il a nommée, bah, c'est son ex, mais ils sont toujours proches, évidemment il l'a trompée, donc ils sont plus ensemble. Et en gros, le gars, il vit sur son ranch, il vit dans un container, genre les shipping containers, qui est genre abandonné à moitié au milieu de son ranch, et je suis là... Franchement, Fraté, t'as niqué ton ex là-dedans parce qu'elle est jolie. Hein.
Sympa. Elle est vraiment sympa, quoi.
Le gars, ils arrivent à 9h30 du mat dans son ranch. Il est debout sur une barrière avec une bière à la main. Oh, il lui lave les cheveux. Ouah, là, l'eau, elle est marron après. C'est wow. Il a les cheveux au carré et l'eau, elle est marron. Ils sont là, mec. Vraiment, l'eau, elle est marron.
Mais où ils trouvent ces gens?
J'ai trop envie de regarder.
Mais oui, c'est leur proche qui les nomine. Écoute.
C'est ouf.
C'est ouais. Une intervention un peu.
Ah, c'est une grosse intervention. Et en fait, ce mec-là, à 17 ans, il est parti faire l'armée. À 20 ans, il menait des hommes du coup au combat au Moyen-Orient et il est revenu et il sait pas en fait comment être un adulte et il est très dans ce truc de masculinité traditionnelle, toxique, texane. Donc les gars ils arrivent, il est vraiment genre, à un moment il leur dit j'ai jamais vu 5 personnes queer en fait en même temps. Bon, probablement que si, mais il le sait pas, mais du coup il est vraiment, en fait il est un peu homophobe, enfin vraiment il est, oui il est un peu homophobe, il est un peu transphobe, il est pas à l'aise avec les masculinités différentes, les expressions de genre différentes, les orientations sexuelles différentes. Mais Queer Eye a toujours eu ce côté, en fait, on va aller parler aux gens qui sont pas comme nous et qui sont pas dans nos bulles. Et en montrant, en fait, c'est juste de la connexion humaine et en montrant que c'est des humains qui connectent, on va aussi montrer qu'il n'y a pas de raison de se détester. Surtout après, enfin, une longue période Trump, etc. Il y avait un épisode dans la première saison où ils allaient voir un flic trumpiste pour le relooker. C'était déjà un flic d'ailleurs qui leur faisait la blague de les arrêter, de leur faire un contrôle sur la route, alors que c'était Caramo qui est afro-américain qui conduit.
Ah oui, je me souviens.
C'était pas marrant comme blague parce qu'en fait, il y a la sirène qui arrive, Caramo il est là.
C'est la fin de ma vie.
Dans mon expérience de vie, une petite route de campagne avec un flic, c'est pas
ouf.
C'est pas fun comme prank. Donc Queer Eye a toujours eu ce côté. Aller connecter avec des gens de droite, aller connecter avec des gens pas tolérants, fermés d'esprit, homophobes, etc. Sans qu'il... Enfin, il va pas non plus les insulter, hein, il y a quand même des limites. Mais il a toute une discussion hyper intéressante avec Jonathan, qui est donc une personne non-binaire. Et où, en fait, il l'appelle sœur, donc il l'appelle monsieur. Et Jonathan lui dit, en fait, je suis une personne non-binaire, je suis pas un homme. Donc je me rends compte que, pour toi, c'est poli de m'appeler sœur, parce que tu me confirmes que je suis un homme, même si j'ai les cheveux longs et j'ai une jupe et tout. Mais en fait... T'es pas en train de me faire un compliment parce que, bah, pour moi, comme pour beaucoup de personnes non binaires, tu peux me genrer au féminin ou au masculin, y a pas de souci, mais j'ai pas envie que tu me dises que je suis un homme. Et le mec, il est là, ok, bah, alors qu'est-ce que je dis? Parce que moi, je veux vraiment être. C'est très important pour moi d'être poli, il a ce côté un peu sud des États-Unis, il tire la chaise, il lève son chapeau, yes ma'am, yes ma'am, yes sir. Et là, on lui dit, faut pas dire sir, il est là, oh putain. Comment je fais du coup
ouais.
Et en fait, il demande, mais du coup, comment je fais? Donc Jonathan, il lui explique. Et il fait, ah ok, donc j'ai le droit de demander les pronoms des gens, ils vont pas mal le prendre. Et Jonathan était, ah bah non, c'est bien en demandant qu'on sait. Et en fait, c'est pas révolutionnaire comme discours, mais bah, ce mec-là, tout comme énormément de gens qui vont regarder l'épisode, n'ont juste jamais eu cette discussion avec une personne non-binaire. Et n'ont jamais... Et après, je suis d'accord que oui, tu peux googler, tu peux te renseigner, mais des fois, il faut que des gens aussi fassent un pas vers toi. Et c'était du coup un super diptyque d'épisodes vraiment très différents qui montrent déjà toute la diversité qu'on peut trouver dans un état comme le Texas. C'est immense, hein, le Texas, mais en vrai, en France, c'est pareil. Tu peux trouver des profils très différents partout et qui montrent qu'en fait, il n'y a pas 1000 façons différentes de connecter avec les gens. Juste traite-les comme des humains, fais preuve d'empathie, que tout le monde fasse un pas vers l'autre. Et à la fin, on a quand même appris des choses et on a quand même passé un bon moment et ouvert un petit peu nos horizons. Donc rien que pour ça, Queer Eye, c'est trop bien. Et après, c'est 2 épisodes sur les 10 épisodes de la nouvelle saison. Et il y a plein de saisons. Donc, au risque de faire un peu de forcing, allez voir Queer Eye sur Netflix. C'est toujours
trop
très
bien.
Cool.
Oui, c'est trop bien.
Moi, j'avais regardé que, le premier épisode de la première saison. Et après, j'avais pas forcément continué parce que je devais regarder d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est intéressant.
C'est trop bien. Enfin, et c'est vraiment pas suivi, donc tu peux moi je binge tout le temps, mais tu peux en snacker un de temps en temps, tu vois, ça dure genre 40-50 minutes. Ça te fait une pause déj très feel good. Et selon les profils, il y en a où tu vas raisonner plus ou moins. Genre là, il y en a un avec des lycéens où ils essayent de leur organiser un bal de promo alors qu'il y a le Covid, donc normalement ils devraient pas en avoir. Au début, j'étais là, ça va un peu me faire chier parce qu'en fait, je suis loin du lycée, ça me parle pas trop. Et en fait, c'était trop chou parce que les pauvres, ils ont passé une année horrible, ils sont trop tristes et tout. J'étais là, non, les bébous. Donc, il y a toujours un truc qui va te rattraper, mais t'as des profils qui vont te parler plus que d'autres, t'as des danseuses, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui va te plaire dans Queer Eye.
Je pensais que c'était que des mecs hétéros et qu'ils allaient voir que des mecs hétéros.
Plus ça avance, moins il y a de mecs hétéros. Si c'est ça qui te bloque.
Non, mais ouais, je me disais, c'est peut-être un peu tout le temps la même chose, tu vois. Et en fait, non, ça a l'air d'être super différent à chaque fois. Et puis, faire casser le barrage entre on va parler avec des gens qui sont pas éduqués là-dessus. En fait, ça va sûrement aider des gens pas éduqués là-dessus qui regardent à mieux capter parce qu'il y a des gens comme eux dans le programme. Parce que quand on parle entre gens qui sont tous d'accord, malheureusement, en fait, souvent, c'est les gens qui sont déjà d'accord qui vont regarder. Donc, ça marche moins bien.
Après, ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc, en effet, de... Enfin, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui fassent des jobs de care, enfin, de prendre soin des gens,
machin. L'épisode avec le rancher a beaucoup fait polémique. Il y a des gens qui disent, honnêtement, moi, j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie de regarder ce gars-là. J'ai pas envie de regarder un mec homophobe se faire aider. Ouais. J'ai pas envie que ça soit encore aux personnes queer de faire un pas c'est vers l'autre et tout. Ce que j'entends totalement. Ouais, après, l'épisode existe. Ces cinq personnes l'ont fait. C'est leur boulot, quoi. C'est une proposition qui peut être débattue, critiquée sans problème. Mais moi personnellement il m'a beaucoup touchée parce que les trucs de masculinité traditionnelle ça m'intéresse, ça, j'y bosse depuis longtemps et tout, je comprends aussi l'autre côté. Peut-être qu'un jour il n'y aura plus besoin de Queer Eye, mais en attendant c'est pas mal que Queer Eye existe.
Ah, mais totalement.
Je pense que c'est ça la take que
vraiment j'ai
que
hâte que de j'ai. Découvrir parce que ça fait longtemps que
j'ai hâte d'avoir ton avis en vrai
autour du pot, mais ouais.
Tu me diras quand t'auras regardé.
Ouais, grave.
Moi, ça me fait chialer.
De ouf.
Et moi, je chiale facilement aussi.
Ah, mais
donc,
je suis en larmes.
Quand c'est des papis. À un moment, il y a un papy, il est veuf depuis 10 ans et tout. Je suis là. Je peux plus.
Mais je me demande si il y a un making of un jour qui va sortir et en fait ça se trouve ils vont voir des gens et des fois ça marche pas et le courant il passe pas.
Je pense,
hein. Le casting est quand même tight, mais là par exemple le premier épisode c'est dans un truc ou un genre de bar vraiment rural Texas où il y a des cours de danse et d'après les reviews Yelp qui sont sortis depuis c'est pas forcément un endroit où c'est une très bonne idée d'aller quand t'es un mec gay par exemple.
Yes.
Donc, parfois on peut rater les choses.
Ouais.
Mais au moins il y a un grand panel de personnalités représentées et ça c'est pas mal.
Je serais curieux de voir à quoi ça ressemblerait en France honnêtement ce genre d'émission.
Moi aussi.
Genre quels endroits craignent, quels discours existent encore et je pense qu'on a toujours de quoi tomber de sa chaise hein. Globalement je pense qu'il y a des trucs que t'entends quand j'entends déjà les gens au moment des repas de famille, de fin d'année etc, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir une famille merveilleuse où tout le monde est tolérant et que genre typiquement mon identité sexuelle a jamais été genre un sujet, ce qui est quand même incroyable. Pareil, je suis végétarien, tout le monde s'en fout, enfin ma grand-mère à chaque fois est en panique en fait, j'ai des galettes de pommes de terre et des pois chiches pour pas que tu tombes
ça,
par
c'est
terre,
juste les mamies qui pensent que tu vas mourir de faim, c'est normal.
Exactement. Mais je vois les gens et je me dis, vous avez des gens dans votre famille
qui captent pas.
Et je me dis, en fait, le problème, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui, politiquement, sont des adversaires, en fait. Au-delà des gens de votre famille qui sont difficiles à affronter le jour du 25, le reste du temps, ces gens la votent. Le reste du temps, ces gens la fréquentent d'autres personnes, sont potentiellement oppressives, sont potentiellement dangereuses.
Sûr.
Et du coup, j'ai toujours ce truc de... J'ai un cocon familial qui fait que c'est difficile de voir à quel point l'horreur existe dans
c'est
ce
clair.
Pays.
On confirme, elle existe.
Ouais.
Mais bien un jour. Queer Eye France, pas pour l'instant.
Ouais,
j'avoue que je dis
déjà,
Queer Eye France,
Race.
Je suis là, oula, ça va sûrement craindre un peu. Mais non, un jour on arrivera
peur,
à bien
hein.
le faire. On va voir RuPaul's Drag Race France, ce que ça donne.
Je suis très
curieuse. Si on s'en sort, maybe Queer Eye France.
Maybe.
Appelez-nous si vous voulez lancer le projet, on pourra faire du consulting. <si vous voulez. rire> Allez, sur ce, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer, qui est ma foi un bel épisode, un peu long, mais que du plaisir. Merci beaucoup, cher Dream Team.
Merci
Audrey, merci Eva, merci Mathis, merci cher LM Crado. Vous avez le topo pour laisser des commentaires, des dédicaces, bref, au pire écoutez l'épisode précédent si vous ne l'avez plus en tête, car on le dit régulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye,
bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.